Donc, deuxième cours sur le septième chapitre de Guérir ta Teshuva. Donc, un chapitre très important. Comme David a dit, c'est un chapitre qui va commencer à nous donner des
Technique
techniques
de combat.
jusqu'au chapitre 6, c'était de la théorie. Qu'est-ce que c'est la Teshuva? Décider de ne plus recommencer. Qu'est-ce que c'est un juif? Un juif était conçu différemment. Qu'est-ce que c'est une Avera? Une Avera, on décide de prendre de l'énergie, on décide de la redistribuer aux forces du mal, qui, elles, suite à ça, vont décider de nous rétribuer largement. Très bien, ça c'est de la théorie. D'accord? En espèce, en ce que tu veux. D'accord? D'accord? Bonsoir. Ça va? Ça c'est de la théorie. Perek Zayin, septième chapitre, on est rentré dans la pratique, dans les techniques. C'est quoi les techniques? On a commencé par expliquer deux choses. Premièrement, on a expliqué que nous, ce qu'on va chercher, c'est Derech Emet Veyachar. Est-ce que vous vous rappelez? On va
Vérité,
essayer de se remettre dans le bain.
Derech Emet, le
D'accord?
chemin de la
On
vérité
cherche
et la
Derech
droiture.
Emet Veyachar. Nous, ce qu'on cherche, c'est un chemin qui est véridique, d'accord? Et qui est droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, va nous expliquer l'Admor HaZaken, tu veux des techniques? Je vais t'expliquer c'est quoi le problème. Le problème, c'est que tout ce qu'on fait, c'est temporaire. Voilà, arrive Yom Kippour, on vit Yom Kippour, arrive Shacharit, on est dans Shacharit, après Shacharit, on ne sait pas ce qui se passe. Amincha, on verra. C'est pas Emet,
Tu viens au cours,
d'accord?
et
C'est
après
pas
on ne sait pas
véridique,
ce qui se passe.
d'accord? Non mais c'est pas véridique.
Absolument. Oui, c'est pas intègre. Après, pour que tu dors. Si tu dors, mais c'était
C'est
bien.
pas que c'est pas intègre, non. Pose-moi une question, est-ce que c'est pas intègre? C'est intègre.
Je regarde
C'est intègre,
Et si on fait un
mais c'est pas
cours?
constant.
Oh non.
C'est pas constant.
L'instant, peut-être, il est
Donc,
conscient.
tu as raison, c'est moi une question que tu poses, c'est peut-être que l'instant est conscient, mais du fait que c'est pas constant
Sur la longueur.
dans la durée, sur la longueur, ça veut dire que c'est pas vraiment sincère. Bon. Alors c'est là qu'on a expliqué, on dit oui, mais c'est bien beau, mais qu'est-ce que tu veux? Moi j'essaie de faire ce que je peux. Je viens à la synagogue, je viens à des cours de Torah, j'essaie d'étudier, j'essaie de travailler. Il dit oui, mais c'est pas constant. Alors qu'est-ce que je veux que je fasse? Je fasse rien, alors oui, t'as raison, voilà, un acquisition, que vous savez, quoi, de toutes les façons, c'est une partie qui est perdue d'avance. Moi je me laisse aller.
Quelque
Ça,
part,
c'est ce qu'on attend de nous?
quelque part.
L'Admor HaZaken a expliqué non. C'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Il a dit non. Il a dit, nous on te demande, c'est derrière Emet Veyachar, d'avoir un chemin qui est véridique et droit. Véridique, c'est-à-dire qui est constant. Comment on peut arriver à quelque chose de constant? L'Admor HaZaken a dit, on va développer deux techniques. Deux techniques très importantes. Et écoutez bien, ces deux techniques. Deux techniques, et en vérité, l'Admor HaZaken donne cette technique pour la Teshuvah, mais en vérité, vous pouvez appliquer ces techniques-là où vous voulez dans la vie. Dans vos relations, dans... C'est des techniques qui sont applicables partout. Première technique, a dit l'Admor HaZaken, c'est quoi?
Comprendre l'enjeu.
C'est exactement comme David dit, comprendre l'enjeu. Ça veut dire quoi? Notre joueur ici, pourquoi il n'arrête pas de faire des gaffes? Et pourquoi à chaque fois il se reprend, à chaque fois il retombe? Parce qu'il ne comprend pas l'enjeu. Donc tu l'expliques. Pourquoi il se retient à chaque fois? Parce qu'il a peur. Il a peur de son entraîneur. Mais le jour où après sa volonté est plus forte, alors il va se mettre à réécouter sa volonté plus que l'entraîneur. Quel est le problème ici? Le problème, c'est qu'il ne comprend pas l'enjeu. Il ne comprend pas l'enjeu, comme ce qu'a expliqué l'Admor HaZaken, ça veut dire quoi? On oublie le fait que notre Neshama vient du niveau le plus haut possible. Et que notre Neshama est descendu le plus bas possible. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette Neshama? On va la prendre, et délibérément, on va la prendre, cette Neshama, on va la pourrir, on va la faire descendre, on va la mettre dans les excréments, comme il avait dit. Et ça, c'est un moment, c'est horrible pour la Neshama. C'est horrible comment on peut faire ça pour la Neshama. Comment on peut prendre un pouvoir tellement extraordinaire et le faire descendre? Tu comprends? Encore si je suis un naze et que de toutes les façons je suis bon à rien. Bon, il est bon à rien, il est né bon à rien, il va mourir bon à rien, c'est une chose. Mais le problème c'est qu'on est bon.
C'est pas la valeur d'un Neshama
Tu
qui ne
comprends?
pas ça. Non, pas
Mais
toi,
justement,
on
ça le
parle de nous,
problème.
on parle de nous.
C'est que c'est pas des petits joueurs là, c'est pas Paris Saint-Germain, c'est des gros joueurs.
C'est pas monsieur Saint-Germain.
D'accord? C'est des gros joueurs.
Toi qui penses que PSG c'est des petits joueurs, il a
tout
tout compris.
Non, je ne sais pas, je connais pas, moi je.
Si,
pas
connais,
mais...
il cache en jeu.
En VMS, je connais
Il
pas.
le foot en vrai.
Tant que, c'est le problème, on n'est pas des petits joueurs, on est des grands joueurs. Et donc comme on est des grands joueurs, c'est pour ça qu'on comprend que c'est beaucoup plus grave. Tu comprends quand c'est un petit joueur de toutes les façons? Ça c'est un qui joue bien, qui joue mal, bon, même quand il joue bien, il joue mal. Donc ça change rien, tu comprends? Même quand il a mal joué, on n'a presque pas remarqué. Mais quand t'as un bon joueur qui aurait pu renverser la situation, mais en bien, et qui te la renverse en mal, c'est horrible. Ça, c'est la première technique de Admor HaZaken. C'est de réfléchir, que Et ça, il a expliqué qu'il y a des moments propices pour réfléchir à ça, comme le Tikkun Ratzot, ou comme on a expliqué pendant la Tfila. Pendant la Tfila, c'est un moment propice, chaque jour pendant la Tfila. Réfléchir à ça. Réfléchir au fait que comment je suis juif et j'ai la capacité de faire des choses extraordinaires. Et qu'est-ce que je fais à la place? Qu'est-ce que je fais à la place? D'accord? Je suis en train de prendre ça et de convertir ça dans le mal. Je lisais, il n'y a pas longtemps, il y avait un journal dans lequel j'ai vu un entrepreneur. Ils interviewaient un entrepreneur. Un entrepreneur, j'ai même pas vu son nom. J'ai vu le parcours qu'il a fait. Il y avait en grand écrit le parcours qu'il a fait. Je me suis dit, c'est sûr que c'est un juif. Je vois le nom en haut, Laurent Cohen. C'est sûr. D'accord? Bon, un parcours.
Chaotique.
D'accord? Bon, peu importe le nom. Hein, Cohen, c'était le nom, mais Laurent, je sais pas si c'est le prénom. Mais Cohen, c'est ça, je me rappelle. D'accord? Sans même voir, hein. Tu te dis, celui-là, c'est un juif. Parce que, c'est quelqu'un qui a la possibilité d'aller tellement loin, c'est un juif. Seulement, la question, c'est qu'est-ce qu'il va faire avec son pouvoir? Est-ce qu'il va le tirer en bien ou en mal? Donc ça, c'est la première technique à expliquer à l'Edmond Razaken. C'est qu'il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps pour réfléchir à l'enjeu. On passe beaucoup de temps pour ça dans la chassidoute. Vous venez à un cours de chassidoute, de quand on parle dans un cours de chassidoute, Dieu, Atsilou, Dria, Yetira, Asiya, on se dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'on veut avec tous ces trucs-là, moi? Je suis ni tzadique, peut-être fils de tzadique, mais en tout cas, moi je suis pas tzadique, d'accord? Qu'est-ce qu'on veut avec ces trucs-là, Atsilou, Dria, Yetira, Asiya, et le monde d'Atsilout, et les tzadikim, et les malachim, et... Qu'est-ce que tu me veux? Je n'ai rien à voir avec moi. Qu'est-ce que tu me parles des grands joueurs? Moi, je suis rien du tout. C'est ce que tu expliques ici à Je te dis non, c'est fait exprès qu'on te parle de ça. C'est parce qu'on te parle de ça pour que tu comprennes l'enjeu. Pour que tu comprennes l'enjeu, pour que tu comprennes qui c'est qui bouge les pions, c'est toi. Et les pions dans quel échiquier? On va te montrer l'échiquier, on va t'expliquer ce que c'est. Je sais pas si tu comprendras tout. Mais au moins tu comprendras qu'il y a un échiquier et qu'il y a des étapes et qu'on peut tirer d'un côté, on peut tirer d'un autre. Donc c'est très important de prendre du temps, et d'essayer d'élargir ses horizons. C'est ce qu'on fait dans la chassidoute. D'ailleurs, il y a des gens qui supportent pas. Il y a des gens qui viennent de cours de chassidoute, ils supportent pas. Parce que quand ils sentent qu'on commence comme ça à s'élargir, que ça commence à devenir abstrait, ils disent, ah, trop pour moi, c'est halakha pour moi. Ça se comprend. Parce que c'est une technique qui est difficile. C'est une technique qui est très difficile. Demander à quelqu'un d'élargir ses horizons sans qu'on va trop comprendre ce qui se passe. Mais c'est simplement pour que, lorsque son Yetzara, il attaque, et lorsqu'il doit faire une mitzvah, il va comprendre que c'est pas simplement une mitzvah, une avéra qu'il fait. Il y a un enjeu derrière. Comprendre l'enjeu, comme ce que David a dit. C'est quelque chose qui est très difficile. Mais c'est quelque chose qui paye. C'est-à-dire que quand on suit le chemin de la chassidoute, c'est un chemin qui est long. D'accord? Mais court. Parce que quand on suit ce chemin-là, et que progressivement, avec le temps, avec les cours de Tania, de chassidoute, du Rabbi, etc., on comprend l'enjeu. Progressivement, on comprend l'enjeu de ce qui se passe et on comprend que jamais on doit se prendre comme un simple juif qui... Oui, il y a des gens, des fois, j'entends des gens qui disent « Ouais, moi je suis un simple juif, moi j'ai un autre terme, moi je suis rien du tout, moi je fais rien. »
Un simple fidèle.
Moi je vous regarde, moi. C'est vous les acteurs, moi nous spectateurs. Non, ça marche pas comme ça.
Si, les acteurs et les spectateurs, peut-être à l'intérieur des acteurs, il y a aussi les acteurs et les spectateurs.
Bien sûr. Ah, parce qu'après, il y a des très bons acteurs.
Et parce qu'il y a les rabbins, il y a les autres.
Eh ben oui. Après, il y a des très bons acteurs. D'accord? Et il y a les acteurs standards.
Il y a les gros bonnets.
Qu'est-ce qu'on
fait? Il y a les rabbins.
Regardez.
Non, il y a
les bonnets.
Est-ce que vous remarquez?
Les bonnets.
Dans un film. D'accord? Dans un film. Il y a combien d'acteurs?
Principaux.
Un film standard. Il y a combien d'acteurs?
Deux.
Combien d'acteurs principaux?
Deux.
Trois.
Bon. Et combien y a de figurants?
Du bénis.
Chaque plan, il y a des figurants.
Combien y a de figurants?
Des milliers.
D'accord? On est d'accord? Il y a des milliers de figurants. On est d'accord? Si tu me poses la question qui est minoritaire, qui est majoritaire, l'acteur est minoritaire par rapport au figurant. Le figurant, il écrase.
Qui c'est qu'on regarde le plus?
Mais qui c'est qui fait le jeu? Qui c'est qui fait le film? C'est l'acteur. C'est la même chose. C'est que nous, on doit réfléchir, on doit prendre du temps pour réfléchir à ça, et c'est difficile, parce qu'on vit dans un monde avec des goyim qui nous entourent, etc. On va se dire, bon, ils ont une religion, nous aussi on a une religion. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la différence? D'accord? C'est quoi la différence? Eux aussi, ils vont dans leur maison le Touma tous les dimanches. C'est quoi la différence? En quoi nous on gère le monde? Il faut prendre du temps pour réfléchir à ça. Vous savez, une technique pour réfléchir à ça, comment on voit ça? Une technique, j'entendais beaucoup dans la yeshiva. On disait que comment une technique pour voir ça clairement, qu'un juif il gère le monde, c'est quand on voit le mal que les juifs sont capables de faire. On a beaucoup plus de mal à voir le bien qu'un juif est capable de faire. Mais quand on voit le mal que les juifs sont capables de faire, ça on voit que quand ils s'y mettent, d'accord, ils s'y mettent. Voilà, aujourd'hui, malheureusement, j'ai entendu ce matin, on m'a dit que le fils de Madoff... Vous imaginez, c'est très dur, c'est le mal. Mais imaginez le mal que son père a fait. D'accord? Un juif, quand il veut faire du mal, il fait du mal. Donc, à plus forte raison que quand il veut faire du bien, il peut faire du bien. Sauf que, comme on avait expliqué il y a un mois, le problème qu'on a, c'est que dans notre monde, on voit pas forcément le bien. Comment le Zohar appelle notre monde? Il appelle Alma de Shikra, le monde du mensonge. C'est quoi le monde du mensonge? C'est-à-dire quoi le monde du mensonge? Comment vous comprenez le monde du mensonge? D'accord? Le monde du mensonge, ça veut dire qu'on n'arrive pas à distinguer le bien du mal. Horrible. Parce que sinon, c'est trop facile. Tu peux avoir quelqu'un qui fait quelque chose de bien, qui paraît bien, mais en vérité, c'est mauvais. Et quelqu'un qui fait quelque chose de mauvais, mais en vérité, c'est
bien. J'aimerais bien ça.
Les limites, d'accord? Mais oui. Les limites sont très très dures à trouver. Donc je reviens à notre sujet. Expliquez l'Admor HaZaken, c'est quoi la première technique? La première technique, c'est de se rappeler constamment l'enjeu. Se rappeler constamment l'enjeu. D'où on est, qui on est, d'où on vient, où on va. Pourquoi c'est tellement important? Pourquoi? Comment? Je suis pas un simple pion, je suis un pion très important.
Dans quelle équipe on joue?
D'accord?
Ce point que je n'arrive pas à comprendre jusqu'à maintenant. Dans le détail, c'est tu as l'air de dire que celui qu'on voit qu'il a réussi dans le mal, ça veut dire quelque part, celui qui a réussi tout court dans le monde matériel, tu soupçonnes, tu veux dire que quelque part c'est quelqu'un qui a une grande neshama, et que s'il avait utilisé cette énergie pour le bien, il aurait été grand dans le bien.
Ça c'est évident.
Mais moi je pense le contraire.
Mais ça c'est évident.
Non, je pense le contraire.
D'ailleurs vous savez, chez les gens réchaïm comme ça, on voit, quand on les regarde, regardez bien. Les Réchaïm. C'est chez les gens comme ça, qui font les 400 coups, qui sont,
oui.
qui fréquentent plus Saint-Tropez que, d'accord? Ces gens-là,
c'est bizarre.
D'accord? Ces gens-là, regardez leur visage. Regardez bien leur visage.
Il est lumineux.
Regardez leur visage.
Oui.
Non mais, je sais ce que veut dire Jacob. Il veut dire, il est lumineux parce qu'il kiffe.
Mais
non,
kiffe, bien sûr.
Pas du tout. Regardez leurs yeux. Regardez bien leurs yeux. Regardez leurs yeux, si c'est pas des femmes, si c'est des hommes.
Oui, d'accord, des hommes, alors.
Regardez leurs yeux, vous allez voir.
Sinon c'est à soi.
Regardez bien leurs yeux, vous allez voir un éclat, quelque chose de particulier.
Oui.
Parce que c'est évident que même si une personne a décidé d'utiliser son énergie en mal, mais il a une énergie en soi extraordinaire.
Parce qu'il a la sensation d'avoir réussi. Non.
Mais pas du tout.
Il est pas lui.
Tout le monde dans sa vie.
On parle de celui qui a réussi.
Mais,
pas de celui...
excuse-moi David, même un paysan, d'accord, qui te fait son chant tous les jours, là, d'accord, il rentre chez lui à la maison, il est persuadé qu'il a réussi. Et il a réussi. Il dit, j'ai réussi aujourd'hui, j'ai fait. Pourtant, il a pas l'éclat dans les yeux. Pourquoi?
Non, celui qui a réussi, vraiment.
Mais pourquoi il a pas l'éclat dans les yeux?
Là où je suis pas d'accord avec toi.
Il sera pas lumineux. Pas.
Si je peux me permettre, là où je suis pas d'accord avec toi.
Là où tu comprends pas, oui.
Là, je comprends pas. Voilà.
S'il a pas de
j'apprends que la Torah, je crois que la Torah, il te met des bâtons dans les roues souvent, pour que tu aies un mérite.
Oui, pourquoi?
Non, mais d'accord. Donc, ça veut dire que, moi, j'ai l'impression souvent que quelqu'un, il peut avoir une prise de conscience, et au lieu de faire une bêtise, il va pas la faire. Donc il va pas réussir, entre guillemets.
Oui.
Et toi, tu es en train de me dire, celui qui a pas fait l'effort et qui était dans le mal, lui, il a réussi et pas
l'autre. Attends, je pose une question. Tu crois que tous ceux qui ont envie de faire d'Averroth et faire les 400 coups, ils réussissent?
En tout cas, ils ont plus de chance.
Attends. T'as plein de gens qui rêvent.
Peut-être que c'est...
T'as plein de gens qui rêvent de faire les 400 coups, mais ils arrivent pas.
Alors, j'essaye alors. On va voir.
Ou ils ont pas le cran, ou ils arrivent pas. Ils sont pas bons. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'on réussit comme ça? Même dans le mal?
Si, je pense que quelqu'un, s'il met toute son énergie dans
mais
le mal,
pas du tout.
Peut-être qu'il va pas. Mais s'il réussit pas, par exemple, c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué que trois choses ont été données à la difficulté.
Oui.
L'étude de la Torah,
mm-hmm.
le monde futur et Eretz Israël.
Mm-hmm.
Donc, tu peux imaginer que quelqu'un qui a du mal pour acquérir la Torah, le mal qu'Hachem va lui faire, c'est qu'il va pas le faire du sort dans les affaires.
Tu as raison, c'est possible.
Alors donc.
Mais moi, ce que je vais expliquer, c'est que les gens qu'on voit qui réussissent dans le mal, c'est une autre question, ça n'a rien à voir.
Mais oui.
C'est sûr qu'il y a la notion des épreuves, mais on voit que les gens qui réussissent et qui sont forcés, qui sont dans le mal, hein, dans les marchés sales, etc., ces gens-là, c'est des gens qui ont une échelle très haute, c'est clair.
Mais moi, j'ai vu souvent des gens qui n'ont pas eu de difficulté.
Oui, bien sûr.
Parce que la difficulté dans la vie, c'est pas tellement de monter,
oui, non, mais c'est
de remonter.
Ça, c'est un autre sujet, ça. Ça
c'est pas de monter. Parce que les gens, ils mentent naturellement.
Ça, c'est un autre sujet, rien à voir.
Oui, mais c'est lié.
Non, ça, c'est un autre sujet. On referme la parenthèse tout de suite. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est un autre sujet. C'est une fois qu'une personne décide de prendre le bon chemin, est-ce que Kadosh Baruch Hu lui met les bâtons dans la roue? Moi, je parle pas de ça. Je parle du fait que si tu as une personne qui réussit dans le mal, d'accord? Une personne qui réussit dans le mal, d'accord? T'en as un qui vole un petit peu, t'en as un, il arrive à voler, il est braqué des banques. Celui qui a réussi à braquer des banques, tu crois que lui qui voulait pas braquer des banques? Celui qui a réussi à braquer des banques, ça veut dire qu'il a une échama avec un pouvoir énorme. C'est clair! Ça, on a plusieurs histoires dans la Gemara comme ça, qu'on voit que les tzadikim, lorsqu'ils voyaient comme ça des grands brigands, des grands voleurs, ils leur accordaient de l'importance. Pourquoi tu leur accordes de l'importance? Essayez de les rapprocher plus que les autres. Pourquoi tu les rapproches plus que les autres? Qu'est-ce que ça change? Parce qu'il a eu plus de cran que les autres? Parce que c'est pas comme ça. Le cran ne vient pas comme ça. Le cran, il vient avec... C'est un pouvoir intérieur qui est très profond.
Il faut avoir du cran pour pas avoir des banques aussi.
Et bon, et, enfin, je referme la parenthèse, on parlera après si tu veux. C'est, pour moi, c'est évident que... Ils n'ont pas le cran, ils n'ont pas le cran. L'idée ne leur vient même pas à l'esprit. D'accord ? Alors, je reviens à notre sujet. Donc, la Gmor Hazaken... Bien sûr, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, bon, on doit fermer cette parenthèse parce que c'est pas le sujet. Allez, messieurs. La Gmor Hazaken a expliqué deux techniques. Première technique à expliquer la Gmor Hazaken, on a expliqué c'est quoi ? C'est de comprendre, de se rappeler constamment l'enjeu. Ça, on l'a expliqué. On vient de le répéter. Deuxième technique à expliquer la Gmor Hazaken, c'est quoi ?
Casser son
Yetzer Hara. Très bien. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Première technique, on dit aux joueurs, c'est quoi ? On lui dit, il faut comprendre l'enjeu. Essaye d'élargir un maximum tes horizons. Plus tu élargiras tes horizons, et plus tu as la chance de combattre ton Yetzer Hara. Quand ton Yetzer Hara, il vient, il te propose un petit kiff, tu lui dis, mais t'es un petit joueur, toi. Moi, je change le monde, moi. Tu l'écrases, ton Yetzer Hara. Alors attention, parce qu'après, Yetzer Hara, il va te proposer des grands kiffs. Ben oui, c'est... À grand joueur, grand kiff. D'accord ? Mais, en tout cas, ce qu'on gagne avec ça, c'est quoi ? C'est que quand on élargit ses horizons, on a beaucoup plus de facilité, on a beaucoup plus de facilité à combattre le Yetzer Hara. Quand on a un grand, quand on a un petit joueur, on s'essouffle très vite. Quand on a un grand joueur, on n'a pas peur. Quand t'as un grand joueur, t'as pas peur. Alors, on le voit même dans les salles de jeu. Quand t'as un petit joueur, il a mis 10 euros, ça y est, il a perdu, il s'en va. Quand t'as un grand joueur, il n'a rien à faire, il n'a pas peur, parce que c'est un grand joueur. Il voit grand, il voit large. Ça, c'est la première technique d'idéalement. Il faut s'habituer à voir le plus large possible. À s'imaginer que quand je fais une mitzvah, c'est le monde qui change. Ça, c'est quelque chose que le rabbi n'arrêtait pas de nous répéter à chaque fois. Comment une mitzvah, ça change le monde et le monde, etc. On dirait qu'on va sauver la planète. Et oui, on va sauver la planète. Parce que quand on réfléchit comme ça, c'est une manière de combattre le Yetzer Hara, que le Yetzer Hara, il ne t'approche même pas. Mais tu l'écrases, tu le regardes même pas. Ça, c'est une première technique. Deuxième technique expliquée à la Gmor Hazaken, c'est qu'il faut prendre des moments dans lesquels on casse son Yetzer Hara. Ça veut dire quoi, casser son Yetzer Hara ?
Supprimer
le... Alors, à l'époque de la Gmor Hazaken, à l'époque de la Gemara, on le faisait ça par les jeûnes. C'est quoi le jeûne, on expliquait ? Alors, on aura un jeûne cette semaine. C'est quoi le jeûne ? Le concept du jeûne, c'est quoi ? C'est de dire, c'est pas parce que je veux manger que je vais manger. Bon, aujourd'hui, on ne rajoute pas les jeûnes. Il y a déjà les jeûnes qui ont été instaurés, on ne rajoute pas sur ces jeûnes-là. Mais, comment on peut casser son Yetzer Hara aujourd'hui ? Aujourd'hui, on casse son Yetzer Hara quand on va supprimer un plaisir. Quelque chose qui est cachère, qui est permis. Mais je le prends pas, je le fais pas. Pourquoi je le fais pas ? Parce que je dis à mon Yetzer Hara, c'est pas parce que j'ai envie de quelque chose que je vais l'avoir. Et ça, quand on réfléchit, ça c'est encore plus fort que la première technique. De dire à son Yetzer Hara, c'est pas parce que j'ai envie de quelque chose que je vais l'avoir. S'habituer à parler comme ça à son Yetzer Hara. Mais attention, pas lui dire ça au moment de la Vera, parce qu'au moment de la Vera, c'est fini, au moment de la Vera, il n'y a plus de discussion. Ça arrête, t'as déjà pris, c'est trop tard. C'est s'habituer à réfléchir comme ça en temps normal.
Tu fais comme les cathos après. C'est bien les bonnes sœurs, etc., qui sont dans leur truc, ils mangent du pain et de l'eau, pas de relations sexuelles. À 7. Et pourtant, la Torah, elle combat, ça.
J'ai pas dit que...
Ah oui, si tu vas de plus en plus.
Non, pas du tout. Attention, bien faire attention, on va expliquer ici de Mora Zaken. J'ai pas dit que c'est interdit.
On parle du superflu.
D'accord ? Et c'est pour ça, hein. C'est pour ça que le concept de l'abstinence, écoutez
oui,
bien.
Oui, la limite, après,
c'est pour ça que dans l'abstinence, la Torah ne donne pas une prescription.
C'est Rabbi Jacob.
Alors, c'est pour ça que la Torah ne donne pas de prescription sur l'abstinence. Elle dit pas que tu vas t'abstenir de ci et de ça. Sur les mitzvot, sur la verot, on a des préceptes, d'accord, des prescriptions très claires. C'est très clair, c'est dit. Ça c'est permis, ça c'est interdit. Mais sur les abstinences, il y a pas, c'est pas écrit. Pourquoi c'est pas écrit ? Parce que c'est personnel, c'est chacun à son niveau. C'est pas on dit interdit d'avoir des relations sexuelles, non, pas du tout. Par contre, c'est écrit dans Shulchan Aruch que pour les Talmidei Chachamim, d'accord, ils se retiennent d'avoir des relations sexuelles seulement une fois par semaine. Vous savez, Shulchan Aruch, il dit ils doivent pas être comme les gens du peuple. Vous savez, ils ne doivent pas être comme les gens du peuple qui ont des relations avec leurs femmes tous les jours, comme des coqs. Vous savez, du Jouran Aour.
Le coq, c'est toujours comme
ça. Alors voilà, comme le coq.
Le coq,
ouais, c'est comme ça, c'est écrit. Tarnégoli.
Une fois par semaine, ça fait une fois par mois, c'est vrai ?
Non,
parce qu'il y a des fois que ça dure plus d'une semaine.
Bon.
Non, mais vrai, non, je sais.
Je me suis dit, bon, le rabbi dit que dans nos générations, il ne faut pas se prendre pour un tamis racham. Non, c'est vrai, parce que dans nos générations, à l'époque, encore, enfin bon. Allez, d'accord. À l'époque, les gens, ils vivaient encore dans leur ghetto, donc ils n'avaient pas le yétin comme aujourd'hui. Aujourd'hui, que le yétin, il nous attaque beaucoup plus, donc on n'a pas le droit de trop s'abstenir, parce que si on s'abstient trop, après le yétin, il va nous attaquer de l'autre côté.
Ouais.
Quoi qu'il en soit, je ne vais pas développer sur ça. Ce que je vais expliquer, c'est quoi? C'est que, voilà, quelque chose comme ça. La Torah ne l'interdit pas. C'est permis. Mais, le concept de l'abstinence qui existe, tu vas me demander quelle abstinence, ça dépend. Par exemple, on sait que le Shulchan Aruch, il dit que la honna d'un nasi, un nasi, ça veut dire un chef, un dirigeant, c'est une fois par an. D'accord ? Une fois par an.
D'accord ?
Alors, une fois par an, c'est... Oui, la ona. Ona, ça veut dire combien de fois il est obligé d'avoir des relations avec sa femme.
Enfin, par an.
Une fois par an. D'accord ? C'est sportif.
Un roi.
Une fois par an.
D'accord ?
Pourquoi les...
Donc ça, c'est écrit.
C'est une raison.
Bien sûr, c'est une raison. Parce que c'est quelqu'un qui a un autre niveau.
Avec chaque femme.
C'est quelqu'un qui a un autre niveau.
Il faut les rois.
D'accord ? Oui, mais non, mais c'est important de comprendre ça. Ça veut dire, c'est pour ça que je dis que c'est relatif.
Il a
60 ans.
Ouais.
Le concept.
Je suis moins vénère.
La question, c'est ce qu'il faisait pas. Le... Bon. Ouais. Il a pas eu 300 gosses, hein. Ouais, mais... bah oui.
Je peux pas gagner chez quoi non plus.
C'est pas un Alors... africain
non plus. Ah. Non, mais c'est important, non. Qu'est-ce qu'on sait?
Non mais on a vu des cas par exemple avec Marat, Benaza, Benzoma, etc.
Bien sûr.
C'est des gens ils sont pas mariés. Et...
Oui. Alors bon, on leur en a voulu pour ça, mais attention, encore une fois. Parce que chez nous, on ne tient pas de l'abstinence. Vous voyez, c'est très intéressant comment. La même Chassidut Chabad qui arrête pas de nous dire qu'il faut s'intégrer dans le monde, c'est elle-même qui nous dit qu'il faut s'abstenir. Parce que c'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire du tout. Pourquoi je m'abstiens? D'accord? Je m'abstiens pas pour me priver, pour me casser. Je m'abstiens pour montrer à mon état que c'est pas parce que je veux quelque chose que je l'aurai.
La difficulté, elle est...
Parce que si d'un côté, tu comprends, si d'un côté un curé, la Avdine, marche mauvais, il va, d'accord, il va s'abstenir de faire quelque chose, mais de l'autre côté, il va faire les 400 cours, on n'a rien gagné. Bah oui. Bah oui. S'il récupère ça en cavode, dans ce que tu veux, on n'a rien gagné. Bah oui, on n'a rien gagné. Tu comprends? Nous, le but pourquoi on s'abstient, c'est pas... Pour dominer, exactement. Pour dominer le Yetzara qui te dit tu veux, tu dois l'avoir.
Eux aussi, hein.
D'accord.
L'idée est la même. Domine pas.
Oui, sauf que
les dérives.
C'est
la généralité.
C'est-à-dire que tu le domines, ça veut pas dire que tu le fais pas. C'est-à-dire que tu choisis la fréquence, c'est différent.
Il y a forcément des dérives.
Enlève les curés. On va enlever les curés.
Tu choisis la fréquence.
Prends les bouddhistes.
Simplement.
C'est exactement ça.
Mais tu fais...
Non, ouais. Non, c'est pareil, c'est pas la même chose. Parce que pourquoi? Parce que eux, on a donné une prescription sur l'abstinence. On a dit tu dois t'abstenir comme ça, et on a dit comment tu dois t'abstenir et de quoi tu dois t'abstenir. Le problème qu'on a, c'est que c'est impossible de donner un mode d'emploi sur quelque chose comme ça. C'est chaque personne à son niveau. T'as une personne pour lui s'abstenir, ça veut dire il va se réveiller 5 minutes plus tôt. T'as une autre personne pour lui s'abstenir, c'est autre chose.
L'abstinence dans le bouddhisme, c'est pour casser le moi, le jeu.
D'accord.
Le but, c'est pas l'abstinence, c'est la
par définition, le Ramban, il explique, on va reprendre les mots. Oui. D'accord. Le Ramban, il dit que par définition, l'abstinence dans la Torah, il n'y a pas de prescription. Ça veut dire que si je veux voir une personne, je vais lui dire retire-toi de faire ci, j'ai rien compris. Je peux pas parler à sa place.
Le but c'est pas l'abstinence, d'accord. C'est le résultat. Que
ça bien sûr.
Oui, c'est le but quand ils s'abstiennent, c'est le but de s'abstenir.
Je connais pas les autres religions, bah au prochain.
Une règle.
Alors. Donc, on dit comme ça.
Faut élargir. Ça dit qu'il faut élargir.
Bien sûr, faut élargir. Alors, cependant.
Non, mais c'est important pour les gens qui connaissent ça, c'est pour pouvoir répondre à d'autres personnes.
Bien sûr.
Ceux qui apprennent ça, c'est pour apprendre à des gens qui sont partis en audience, pouvoir leur répondre. C'est pour ça qu'ils apprennent.
Ils apprennent pas pour apprendre.
C'est ça. Ils apprennent surtout pour les autres personnes qui sont...
Ah,
pour comprendre les gens, faut savoir comment ils pensent.
Ah, cependant, donc on prend un ah, donc on est à la page Tadigzaïn, 10 lignes avant la fin de la page. Donc là, on va expliquer comment on va casser son Yitzhara. Comment on casse son Yitzhara. Donc on a expliqué une première technique, comment on casse son Yitzhara. On a expliqué. Casser son Yitzhara, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on a dit, ça veut dire, à l'époque c'était les jeunes, mais aujourd'hui c'est plus les jeunes, c'est justement casser son Yitzhara, lui dire, c'est pas parce que je veux dire quelque chose que je vais le, c'est pas parce que je veux quelque chose que je vais le faire. Ça, on a expliqué, ça s'applique à partout. S'appliquer dans la nourriture, s'appliquer dans les paroles. Dans les paroles. C'est pas parce que je veux dire quelque chose que je vais le dire. S'appliquer dans les pensées. Dans les pensées. C'est pas parce que je pense à quelque chose, que je veux penser à quelque chose, que je vais continuer. C'est une manière de s'habituer à réfléchir. Que c'est pas parce que je veux que je l'aurai. Bon. Ah, nous dit l'admon Razaken, Ikarachna talem, liot nish barvenitke, va varatro achatum avesitra achara, mais il dit l'admon Razaken, comment, cette deuxième méthode qui dit qu'il faut casser le yitzarara, comment on réussit vraiment à soumettre son cœur et casser son yitzarara, comment on fait? Ou, liot mi mared rushbena, ça vient pas comme ça, comment tu crois que tu casses ton yitzarara? Je crois que ça y est, je vais casser, elle est dehors, d'accord? Casse-toi. Ça marche pas comme ça. Mi mared rushbena. Ça vient par la réflexion. Ça vient par la réflexion, ça vient pas comme ça. Ça vient par la réflexion, be'omekadat, une réflexion profonde. Pas devant tout le monde comme ça, regardez-moi, je réfléchis. Dans un moment où personne te regarde, tu veux te mettre à réfléchir. Pas quand tu conduis ou quand tu veux. Quand tu réfléchis profondément. Be'omekadat, profondément, réfléchir à quoi? Tout d'abord, le'amik dato uvinato sha'achat. D'approfondir, dato ou vinato, d'approfondir sa compréhension, d'essayer de réfléchir profondément. Bechol yom ufrol laïla, chaque jour, chaque nuit, ou bien s'il faut, même une fois par mois, ou une fois par semaine. Lifne tikkun chatzot, avant tikkun chatzot, alors à l'époque de Morazaken, on le faisait encore, bon. Leit bonen, bema shepa'al ve'asa bechatav, prinat galut ashrina, kaniskar leel. C'est ce qu'il dit à Morazaken, il dit comme ça, il dit c'est très simple. Il dit maintenant que dans la première technique on a élargi les horizons, dans la deuxième technique, c'est pas seulement je dirai, ah, je vais casser mon Yitzhara, je vais lui dire t'es un as. Mais comment tu casses ton Yitzhara? Ton Yitzhara il est plus fort que toi, viens maintenant, dis-moi. On vit qu'une fois, profite. Comment tu casses ton Yitzhara? On va casser son Yitzhara quand on va réfléchir comment avec nos avérotes, la gravité de ce qu'on a pu faire à cause de nos avérotes. Réfléchir sincèrement. Comment pour un petit kiff on est parti complètement à côté de la plaque et que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et réfléchir profondément à ça, comme il dit Fled Morazaken. Que pour un petit kiff, je pris la shrina, et je l'ai envoyé en exil, et encore plus, et je l'enfonce encore plus. Tout ça pourquoi? Pour un petit kiff. Quand on réfléchit à ça, dit Fled Morazaken, l'homme doit arriver à une conclusion que le jeu n'en vaut pas la chandelle. D'accord? Ça veut dire quoi? On donne un exemple. Alors, il donne un exemple. Il donne un exemple suivant. Il dit, c'est comme tu as une personne, un businessman. D'accord? Qui fait, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année, il fait un calcul de ses affaires, il fait un inventaire de ses affaires. D'accord? Il fait un calcul. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit, voilà, là on a perdu, là on a gagné. Cette personne-là, le businessman qui fera le calcul, il fera un calcul qui l'impactera beaucoup plus que si c'est un comptable qui le fait à sa place. Et il trouvera d'ailleurs beaucoup plus de techniques que si un comptable le fait à sa place. Je dis pas qu'on ne doit pas avoir un comptable, mais lui trouvera beaucoup plus. Pourquoi? Parce que le comptable, c'est pas son affaire. Le comptable, c'est un employé. C'est pas son business, c'est pas son affaire. Si l'affaire elle coule, s'il y a un peu d'argent en moins, un peu d'argent en plus, ça va rien lui changer. Donc il en a rien à faire. Alors que lorsque je sens que c'est mon argent, que c'est mon argent et que c'est moi qui est en train de faire qu'il y ait plus d'argent ou moins d'argent, et c'est, je vois ça de manière complètement autrement. C'est ce qu'il dit Edmond Razaken. Il dit que à quoi on doit réfléchir? On doit réfléchir, on doit prendre du temps à ça. Et d'ailleurs on voit que la Hitbonenout qu'on a, la réflexion qu'on a dans le mois de Elul, c'est pratiquement ça. Et c'est la réflexion qu'on doit avoir aussi tous les jours, ou chaque fois qu'on réfléchit sur sa neshama. De dire comment, par notre décision, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris notre neshama, on est en train de l'enfoncer. C'est-à-dire, la première technique, c'était de comprendre l'enjeu. La deuxième technique, c'est une fois que j'ai compris l'enjeu, de me casser. De dire, mais comment c'est possible? Comment j'ai pu faire quelque chose comme ça? Vegam. On continue encore quelques lignes, après on développe. Vegam. Garam, la kor, nishmato, venafsho, mechaye, achaim, baruchu. Comment à cause de ma avéra, j'ai déraciné ma neshama de la vie, ce qui est à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire de la source de la vie. Veorida limkom atuma va mavet anechalot atitra achara. Je prends ma neshama, je l'ai fait descendre dans l'endroit de l'impureté, dans l'endroit de la mort. Ça c'est le trône de Sitra achara, des forces du mal. Venaaset et prinat merkava lehem lekabel mehem shefa vechayut lashpel gufu kaniskar leel. Ça veut dire qu'après tellement la Neshama, comme on avait expliqué il y a deux semaines, tellement après la Neshama a donné aux forces du mal, que la Neshama devient attrapée par les forces du mal. Imaginez-vous qu'autour de notre Neshama, on a comme ça des satanes qui sont autour de nous comme ça, et qui la laissent pas bouger. Partout, elle va lui dire, non, on te laisse pas bouger. Pourquoi elle laisse pas bouger? Parce qu'ils sont là pour récupérer toute l'énergie. Tout ça à cause de qui? À cause de notre petit kiff. Il y a un problème. Quand on réfléchit, on voit que c'est disproportionné. Et c'est à cette conclusion qu'on va arriver. Et c'est à cette conclusion qu'on veut arriver également, quand on a les tefillot de Rosh Hashanah et Kippour, quand on a les tefillot de tous les jours. On essaye de dire à Kadosh Baruch Hu, c'est notre père, c'est notre roi, etc. C'est pour expliquer la disproportion qu'il y a entre ma petite avéra et la gravité et l'impact de ce que j'ai fait. Le petit kiff que j'ai eu et la gravité de ce que j'ai fait. Et maintenant, tu t'imagines pour un petit kiff que tu voulais te tout casser? Ça, c'est un deuxième point que dit l'Admor HaZaken. Donc là, bien sûr, il a extrapolé. Mais le concept est applicable, et ça, on peut y réfléchir tous les jours. Réfléchir à la gravité de nos erreurs, se casser. Voilà, donc on a donné des techniques comment on se casse. Voilà, par exemple, je me retiens. Pourquoi je me retiens? Parce que je dois m'habituer au fait que c'est pas parce que je veux que je vais l'avoir. Et que si on suit la volonté, comme on a expliqué la semaine dernière avec Yavan, avec la Grèce, qu'est-ce que c'est la culture grecque, si on suit notre volonté, où on peut arriver? On peut arriver à un tel point qu'on prend notre énergie, l'énergie d'Akadosh Baruch Hu, on la fait descendre vers la mort, comme il a expliqué ici. Vezeu Shamru Razal. Avec ça, on va comprendre ce que les Chachamim ont dit. Rechaim Bechayem Kruim Metim. La Gemara Brachot, elle dit que les Rechaim, dans leur vie, ils sont appelés des morts. Des morts vivants, on les appelle des morts. Pourquoi on les appelle des morts? C'est pas mort, ils sont vivants. Que tu me dises que les Rechaim vont souffrir au Gehinnom, ça je vais bien l'accepter. Mais pourquoi tu me dis que les Rechaim, dans leur vie, ils sont appelés des morts? Ça veut dire quoi?
On a l'impression qu'ils vivent.
Au contraire, on a l'impression que les vrais kiffeurs, c'est qui? C'est eux. Alors, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est l'Admor HaZaken? Kelomar, ça veut dire Shechayehem Nimshachim Imakom Amavet Vatouma. Que la vie, tu vois, la vie, leur kiff que tu vois qu'ils sont en train de kiffer, d'où elle vient cette vie? Cette vie leur provient de l'endroit de la mort. Qui c'est qui amène la mort? C'est les forces du mal. Pourquoi on dit que les Rechaim sont des morts vivants? Parce que tu vois la vie qu'ils ont. D'où leur vient cette énergie? Cette énergie leur vient du même endroit d'où provient la mort. D'où provient le mal. C'est pour ça qu'on dit ces gens-là, tu les vois kiffer, mais l'énergie qu'ils ont, le kiff qu'ils ont, c'est du kiff qui vient du même endroit que le mal vient. V'chen mashekatou, pareil, ce qui est écrit aussi, on l'a dit dans la Halel. Lo hametim yahaleluka. D'accord, qu'est-ce qu'on dit? Il y a un verset dans lequel le roi David dit, Lo hametim yahaleluka. Ça veut dire que c'est pas les morts qui vont chanter à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire ce verset? Comment vous comprenez ce verset? On dit c'est pas les morts qui vont chanter à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? À qui on parle exactement? On s'adresse aux vivants, mais les vivants ils savent qu'ils sont vivants. On s'adresse aux morts. Alors quoi? Tu veux l'embêter? Tu veux dire ah c'est pas toi qui peux chanter?
C'est les morts vivants que t'as dit.
D'accord? Alors justement, il dit Eino Keloeg Larash Rasvechalam. On sait très bien que dans Shulchan Aruch, il y a un principe très important qu'on n'a pas le droit de se moquer du pauvre. Alors ça veut dire quoi quand le roi David dit dans Tehilim, il dit que c'est pas les morts qui chanteront à Dieu. Pour qui il parle? Il parle pour les vivants, mais les vivants ils sont déjà vivants.
Il parle pour les morts,
mais tu te moques d'eux alors, parce que toutes les personnes ne peuvent pas chanter. Mm-hmm. Alors à qui on parle? C'est une halakha très importante, c'est la raison pour laquelle quand on rentre dans un cimetière, on doit cacher ses titites. Pour pas se moquer du mort, que lui ne peut pas mettre les titites. C'est ça qu'on n'a pas le droit de mettre les tefilines dans un cimetière. Pour pas se moquer du mort, lui il peut pas, moi je l'aimais. Alors qu'est-ce qu'il dit le roi David quand il dit Lo hametim yahaleluka? C'est pas les morts qui vont chanter à Dieu. Mais à qui tu parles? Aux vivants, ils sont vivants déjà. Aux morts? Mais les morts, de toute façon, ils peuvent rien faire. Alors tu les embêtes? Ça s'appelle remuer le couteau dans la plaie. Dis non là pour Azakel. Quand on parle des morts ici, on parle pas des morts physiques. On parle des Rechaim. Et ça veut dire que quand on dit l'homme est mis à l'éluca, ça veut dire qu'on te dit qu'une personne qui est mort. C'est quoi un mort? Un mort, on a expliqué, c'est un rachat. Pourquoi on l'appelle un mort? Parce que son énergie provient d'où? Elle provient du même endroit d'où provient le mal, d'où provient la mort, d'accord? Cette personne-là, l'Ohametim Yaleluka, il peut pas chanter à Dieu. Une personne qui a l'esprit tordu ne peut pas faire une bonne fila, c'est pas possible. C'est ça ce que ça veut dire par extrapolation. Ça veut dire que quand on vient dans la tfila, tu dis Baruch Ata Hashem Elokeinu, béni sois-tu Hashem notre Dieu. Tu vois que ça parle pas. Pourquoi ça parle pas? Parce que ça parle pas parce qu'on est mort à ce moment-là. Quand on est mort, ça peut pas parler. Quelqu'un qui est mort ne peut pas parler. L'Ohametim Yaleluka, dit le roi David. Une personne qui est mort ne peut pas remercier Kadosh Baruch Hu. Parce que ça ne l'intéresse pas. Dès qu'il essaie d'avoir une pensée comme ça, tout de suite il y a les Satan et tous les états qui sont en train de l'entourer, et il ne le laisse pas. L'Ohametim Yaleluka, on parle pas des morts physiques. Ça peut être des tzadikim, ces gens-là. On parle de nous. Que lorsqu'on vit dans une avéra et qu'on a fait des avérotes et qu'on est pris dans des avérotes, qu'est-ce qui se passe? Très simple. Ce qui se passe, c'est qu'après c'est fini, on n'est plus attiré par une mitzvah. Et même lorsqu'on essaye de faire une mitzvah, on chante pas. L'Ohametim Yaleluka. Le roi David ne dit pas que tu n'arriveras pas à dire les mots. Tiens, les mots, tu pourras les dire, comprendre la traduction, peut-être que tu pourras comprendre aussi la traduction. C'est pas ça la question. La question, c'est est-ce qu'on peut vivre la tfila? On peut pas. Ça veut dire que, et c'est pour ça que on a expliqué tout à l'heure, que un des meilleurs moments pour se casser justement et pour essayer de penser à ça, c'est la tfila. Quand je vois que j'essaie de faire ma tfila, j'essaie de faire ma mida, je vois que ça démarre pas. Je me dis, mais mince, pourquoi ça démarre pas? Et c'est là que je comprends, je dis, mais attends. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que toute la journée tu fais ce que tu veux, et maintenant tu viens, ça y est, sur demande, tu allumes, ça marche? Ça marche pas comme ça. L'Ohametim Yaleluka, c'est ce qu'il dit le roi David. Pour chanter à Kadosh Baruch Hu, il faut être vivant. Être vivant, ça veut dire quoi? Être vivant, ça veut dire casser son Yetzara. C'est-à-dire montrer que c'est pas parce que je veux quelque chose que je l'aurai. Là, après, on peut espérer que lorsque j'essaye de démarrer, ça démarre. Mais si je montre que je fais ce que je veux, là, mettez-moi les Lucas. Dans les mots. Et là, Akavana, Ala Rechaim, Shebechayehem, Kruim Metim. Après, chacun à son niveau, mais ça, c'est le concept. On parle ici sur les Rechaim. Quand on dit que les morts ne peuvent pas chanter à Kadosh Baruch Hu, de qui on parle? C'est avec une David.
Mais je note, je sais pas si.
Ah. Quoi on parle? De qui on parle? On parle. Ah, il suffit de demander, tu vois.
Voilà.
Donc il dit comme ça à Edmond Zaken. Il dit, et là seulement. Ouais. Alors, donc je continue. Donc, et la kavana à la rechaim shebechayem kuim metim. Lorsque David Ameler dit, loham metim yaleluka, que c'est pas les morts qui vont chanter à Kadosh Baruch Hu, de qui il parle? Il parle pas des morts physiques. Parce que, t'es en train de te moquer d'eux quand tu leur dis ça. Non! On parle des rechaim. On a expliqué déjà dans le premier chapitre du Tanya, qu'en vérité, la majorité des gens rentrent dans la catégorie de racha vetovlo, c'est-à-dire un racha, mais qui a une majorité de mitzvot, que c'est nous. Shebechayem kruim metim, shemevalvelim otam bemarshavot zarot beodam berisha'am. Qu'une personne qui est racha, c'est quoi, comment le Yitzhara, il attrape une personne racha? Il va écouter bien ce qu'il dit là de Morazaken. Une personne comme ça, comment le Yitzhara va le prendre? Il va être mevalbel. Il va l'embrouiller, bemarshavot zarot avec des pensées déplacées. C'est quoi une pensée déplacée? Ça veut pas dire forcément qu'il va penser à quelque chose d'assourd. Ça veut dire une pensée qui n'a rien à voir avec ce qu'il doit faire maintenant. C'est ça qui met une marche à Vazara. Comment il fait le Yitzhara? Lorsque tu as une personne qui toute la journée il fait ce qu'il veut, et qu'à un certain moment maintenant il a décidé de faire la tfila, de se concentrer dans une mitzvah, il dit quoi? Tu crois que tu vas te concentrer maintenant dans une mitzvah? Tu crois comme ça? Il va aller guérir dans d'autres pensées. Alors après ça dépend du Yitzhara. Ça va être Yitzhara carrément, il va te donner des pensées mais complètement aucun rapport. Non, bon, c'est des pensées soft, mais c'est des pensées qui n'ont rien à voir avec la tfila.
Par exemple, il va arriver à la synagogue à 9h, puis finalement il arrive à 11h.
Non,
il était prêt à 9h, hein.
Pas du tout, ça c'est non, il vient à la synagogue.
Il met une chaussure à mettre, il a mis deux.
Il vient pas du tout, il vient à la synagogue, il est venu à l'heure, d'accord? Il est venu à l'heure, comme tout le monde. Non, pas du tout.
Il arrive à l'heure,
il a commencé cette fille-là à l'heure, etc. Mais il commence cette fille-là, il ouvre son livre, il dit Hodou Lachem qui rouvre Ishmo, remercier Dieu, appeler son nom. Il dit mais remercier qui et appeler qui? Ça veut dire rien, il n'a rien à faire. Mais je fais quoi là? Je parle à qui là? Bon, alors après, il continue à avancer. Après, il continue à lire les mots, mais ça, puisque ça lui dit plus rien, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il va se mettre à penser à autre chose. C'est fini, ça y est, il est guéri. C'est exactement ce qui est. Pourquoi ça? Comment ça se fait? C'est très simple, parce que l'eau a metimi à l'éluka. Quand on est mort, ça marche pas. Le Yetzara, il s'arrangera toujours pour t'amener une autre pensée. Pas forcément une pensée à sourd, mais une pensée qui n'est pas adaptée au moment. Venam rafetim bitchuva kanoda. Et c'est à cause de ça. Le Yitzhara, il va s'arranger pour faire diversion. Ça veut dire quoi faire diversion? C'est-à-dire s'arranger pour que dès qu'il sent que la personne, il y a un moment dans lequel il peut faire teshuva, il va faire diversion. Ça veut dire quoi faire diversion? Ça veut dire, il dit, il va te faire penser à tout ce que tu veux, sauf à ce que tu dois penser. C'est ça faire diversion. Quoi faire diversion? C'est-à-dire que ça veut dire que tous les moyens sont bons. C'est ce qu'il fait Yitzhara pendant la tchila. Il dit, pense à ce que tu veux. C'est quoi, pense à une mitzvah que tu vas faire cet après-midi. Allez, pense à ce que tu veux, éclate-toi. Tu penses à tout, sauf à ce que tu dois faire maintenant.
C'est pour ça qu'on a dit qu'il fallait se préparer.
Bien sûr. Pense à tout sauf ce que vous avez fait. Ça, c'est l'Yitzhara. Pour ça, ça c'est Marshava Zara. Une pensée étrangère. Ça veut pas dire une pensée interdite. Des fois, l'Yitzhara, il va te faire penser à une mitzvah. Oui, je pensais à une mitzvah, je vais faire ça cet après-midi. C'est en plein milieu de la mida. C'est pas le moment. Ça, c'est l'Oha Metim et l'Eluka. Ça, c'est une pensée qui vient direct du Yitzhara. Claire. Pourquoi? Parce que justement, parce que l'Yitzhara, il essaie de tout faire pour que la personne reste morte. Reste attachée uniquement au mal. Donc ça, hein, ça c'est la deuxième technique qui veut dire qu'il a expliqué l'Admor HaZaken. La deuxième technique à expliquer l'Admor HaZaken, c'est quoi? C'est de réfléchir comment la personne, à cause de ses avérotes, il a fait descendre la Shrina à tel point qu'il a complètement coupé les ponts entre sa Neshama et Akadosh Baruch.
Il dit réfléchir jour et nuit, chaque jour.
Bien sûr, c'est jour et nuit, c'est constant ça. Qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, c'est constant. C'est ce qu'on fait dans la Tfila. Si juste on...
À ce point, on a fait des fautes.
Attends, oui. Mais excuse-moi, mais il faut juste voir la traduction des mots de l'amida, excuse-moi.
T'as pas compris l'enjeu, c'est pour ça que je dis ça.
D'accord.
Oui, mais si on se rappelle constamment ses fautes, comment
il suffit
on peut avancer?
Il suffit juste de voir la traduction des mots de la Tila. Regarde juste la traduction des mots de la Tila.
Mais j'arrive pas bien à comprendre, parce d'accord. Que se rappeler constamment ses fautes, c'est bien de ça qu'on parle.
Non, attention. J'ai pas dit se rappeler constamment de ses fautes. C'est pas ça ce qu'on a dit. On a dit deux choses. Premièrement, on a dit... essayer d'élargir un maximum son horizon pour comprendre l'enjeu. du joueur, etc.
C'est la première technique.
Deuxième technique complémentaire, c'est quoi? C'est casser son Yetzara. Comment je casse mon Yetzara? D'abord, en lui donnant pas ce qu'il veut. Et deuxièmement, en me rappelant de temps en temps, et comme il dit ici constamment, d'accord, en me rappelant le fait qu'à cause de ma vérance, comment je suis en train de pourrir Maneshama et le monde. Et ça, ça casse le Yetzara. Ça casse le Yetzara. Un certain moment, il dit, mais attends, c'est pas possible. Tu veux faire un petit kiff, tu casses tout. Comme si, imagine-toi, un enfant, il a un stylo, il a envie de faire un kiff, il a envie d'écrire. Maintenant, il va t'écrire sur le mur, il faut refaire toute la peinture. Mais attends, pour ton petit kiff, t'as tout cassé le mur, faut te refaire la peinture. C'est un petit exemple, c'est la même chose. C'est ce qu'on est en train de faire. Pour un petit kiff, on est en train de tout casser.
Oui, le mec, il trompe sa femme, il est obligé de divorcer.
Eh ben, bien sûr. D'accord? Bien sûr. Il a tout cassé, c'est fini. Mais attends, dis-moi, tu réfléchis pas à ce que tu fais?
Deux secondes.
Alors, donc ça c'est très très important à comprendre. Surtout dans le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui dans lequel, quand on écoute un peu les informations, on voit que dans le monde d'aujourd'hui, les politiques par exemple, on sait très bien que les politiques, ils ont tous la corruption, etc. La question c'est pas est-ce qu'on fait la corruption ou pas, la question c'est qui se fait attraper. Enfin, j'ai eu ce sentiment très fort dans le dernier scandale qu'il y avait avec, comment il s'appelle, Eric Verne. C'était quoi le gros scandale? Je sais pas si vous avez écouté dans les médias, mais un truc qui m'a marqué le plus, c'est quoi? C'est que la question n'était pas est-ce que la corruption c'est quelque chose de bien ou c'est pas bien. Il y a même pas cette question. La question c'est est-ce qu'on l'a attrapé? Est-ce qu'il a fait ou est-ce qu'on l'a attrapé ou pas? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que la question, aujourd'hui on dit écoute, fais ce que tu veux, mais ne te fais pas attraper. C'est comme ça que les gens pensent aujourd'hui.
Pas vu, pas pris.
D'accord? Pas vu, pas pris, exactement. Et c'est comme ça que les gens pensent par rapport à Averroth aussi. Pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris.
C'est tout le monde.
D'accord? Bien sûr. Tout le monde pense comme ça. Et c'est ça qui vient de dire le Morozaka, il te dit non, ça marche pas comme ça, il n'y a pas vu, pas pris. C'est que même si personne t'a vu, mais toi, à l'intérieur de toi, tu dois savoir que t'es tout cassé. D'accord? C'est toi qui es pris. Bon. Là, le Morozaka a quand même dressé un portrait qui est très négatif à la fin. Il a dit que la personne, il a pris sa Nishama, il a fait descendre dans les forces du mal, vers la mort, etc. C'est quand on a l'impression d'une personne qui a fait vraiment les 400 coups. La question qu'on a se poser, c'est est-ce que vraiment on doit réfléchir? Est-ce que vraiment on est tous dans cette catégorie? Bon, je veux bien une personne qui a fait d'Averroth sur lequel on est Khayaf Karet, quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila.
Je comprends pas le constamment.
Quelqu'un qui a mangé du Khamet à Pessar, je veux bien comprendre. Mais bon, pourquoi la Morozaken ici? C'est-à-dire jusqu'à ces dernières minutes, bon, le message était assez soft. Là, on a eu l'impression, je sais pas si vous avez cette impression, la Morozaken, tout d'un coup, il a fait une tournure à 180 degrés, on est passé et il s'est mis à nous taper dessus. Ça va. Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu dis que j'ai pris ma Neshama et que je l'ai amené vers les forces du mal, etc. Pourquoi tu me parles comme ça?
On parle de victime.
Pourquoi c'est une technique, ça?
Il y a une technique de casser Yetzara.
Mais j'ai l'impression que cette technique-là, la deuxième technique pour casser Yetzara, c'est la même chose que le premier point, c'est-à-dire...
Non.
Comprendre l'enjeu.
Non, c'est pas la même chose. Elles se rejoignent, mais c'est pas la même chose. La première technique, c'est comprendre l'enjeu.
Voilà.
Sans réaliser ce que moi je fais, ce que moi je fais pas. C'est comprendre l'enjeu.
Il faut pas penser que ça est...
D'accord.
Il y a un impact, et un impact est immense.
Quoi. Oui. Comprendre l'enjeu. Comprendre. Lorsqu'une personne fait ses choix, par exemple, pour venir, on va l'inviter, on dit, tu sais, la beauté d'un juif, etc. Non, on va pas lui dire, tu sais, toi t'es Averroth, voilà ce que tu as fait. Ne le perds pas de ta vie, juste parle-lui de l'enjeu. L'enjeu. Bon, l'enjeu, le jeu. Ça, c'est la première étape. Mais après, il y a une deuxième étape, dans laquelle tu dis, bon, ok, vas-y, voilà ce que j'ai fait. Quand j'ai fait d'Averroth, voilà ce que j'ai fait. J'ai tout cassé. Ça, sauf que comme je dis ici, la Morozaken, a priori, il a dressé ici un portrait très négatif. Il a dit, oui, celui qui a fait une Avera, qu'est-ce qu'on a expliqué? Celui qui a fait une Avera, il a pris sa Neshama, il a tout coupé, il l'a envoyé vers les forces du mal, vers la force de la mort, etc., etc. Ça va. Doucement. On va expliquer la Morozaken. Pourquoi il est en train de... Il va expliquer la Morozaken pourquoi il a dressé un portrait comme ça. Il dit comme ça. Vous avez dans les mots? Alors, où ça en est le match?
Ouais,
elle a raison. Si j'ai fait l'effort de venir, il y avait un gros match ce soir.
J'ai même pas fait d'effort.
Ah, c'est même pas un effort?
C'est même pas un effort.
David, c'est un effort ce soir?
Même la dernière fois.
Hein?
Non,
oui,
on peut plus l'enregistrer.
Ah, tu l'as enregistré. Ah, tu vas le voir dès que tu rentres, c'est ça? Ah, il va rentrer, il va dire, ne me dites pas les résultats, ne me dites pas les résultats.
après un gros effort spirituel, oui,
il va décaler sa montre une heure et demie plus tôt et il va vivre en live le match.
Ça il est en tenue déjà, regarde.
Allez. Alors on y va, monsieur.
Ah, mais je m'en fiche,
Donc on a ici. La Dmourazaken ici a dressé un portrait.
Moi je suis émette, hein. Si je suis là, c'est que.
C'est que je suis là. Non, attends, bon, un effort.
Je suis émette. Supprime le jeu. Hein.
Le jeu avec un U à la fin.
Non, le jeu.
C'est Af, Michel Loavar, Alavon Karet, Vegam Loavon Mitabi Deshamaï.
Les vacances arrivent, hein.
Zil, Admorazaken, Nathan, pourquoi tu me parles tellement dur? Rappelez-vous, première technique, c'est comprendre l'enjeu. C'est quoi la deuxième technique? C'est se casser. Bon, d'accord, je veux bien me casser. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, oui, c'est très grave, t'as coupé les ponts, t'es devenu un mort. Après, faut pas s'étonner si un mort ne ressent plus rien. J'ai dit, attends, ça va, j'ai fait de la verrotte, mais pas à ce point. J'ai pas coupé les ponts à Dieu. Bien, si j'ai pas fait la brit mila, ou si j'ai mangé du hametz à Pessah, etc. Ou bien, comme on a dit, d'autres avérotes qu'on va citer, je veux bien. Si je les ai pas fait, attends, dis-moi, ça va, pourquoi tu parles comme ça, hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Doucement, comme tes mots.
C'est vrai, ça.
D'accord? Ah oui. C'est vrai, disons les choses clairement. Attends, je suis pas au Hachem, j'essaie de faire des efforts, je vais à la synagogue, j'ai prié, j'ai donné du religieux, j'ai fait Shabbat, etc. Pourquoi tu parles comme ça? C'est vrai? Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi t'as besoin de parler durement comme ça? Bon, d'accord, c'est vrai, je fais des choses pas bien, mais l'Admorazaken a parlé très dur dans la deuxième technique. Elle dit, oui, il est devenu mort, il faut pas s'étonner si après quand on est mort, on ressent plus rien, etc. On n'a pas l'habitude d'entendre ça. On dit l'Admorazaken. Il dit, même si la personne n'a pas transgressé une avéra sur laquelle on est chayav karet. Donc, c'est quoi une avéra sur laquelle on est chayav karet, par exemple? Manger du hametz, ça fait ça. Brit mila, etc.
Oui, oui.
Vegam, l'eau à la vanne mita bide shamaïm. Et même si cette personne n'a pas fait une faute sur laquelle on est chayav mita par le ciel. Comme quelle avéra, chez où, otsad zera levatala ou kaagavna, qui est l'avéra, donc faire sortir de la semence en vain. Pour cette avéra, Zohar est dit clairement, c'est écrit dans la Gemara aussi, on est chayav mita bideshamaim, la mort du ciel. Même si une personne n'a pas fait sa avérote là. Et là, chez avérote kalot, d'autres avérotes qui sont plus légères. Pas qu'il y a des avérotes qui sont plus graves que d'autres, mais on a expliqué il y a un mois que c'est comme dans un système de fils qui nous attache à Kadosh Baruch Hu, il y a des fils explosifs, il y a des fils que tu coupes, ce fil, il n'y a que ce fil qui saute, il y a des fils que tu coupes, c'est tout qui saute. Vous vous rappelez l'image qu'on avait donnée? Bon.
D'accord.
Et personne va dire, attends, tu vois, doucement. T'es en train de me dire, il a tout coupé, il est devenu mort, c'est fini, etc. J'ai dit, je vais couper. Bon, j'ai coupé un fil, deux fils, ça va, mais la corde, elle est toujours là, quand tu parles comme ça. Il dit comme ça, Afal Piken quand même. Et ça, c'est quelque chose de très très fort qu'il y a de Morazak Anissé. Mais achar shem pogmim vaneshama. Étant donné que même si c'est une petite avéra, et qu'à mon niveau, pour moi, encore une fois, c'est relatif petit, c'est que pour moi, par rapport à mes efforts spirituels, ça me paraît une petite avéra. Dis la Morazaken, petit, mais quoi petit? Ukemashal bdimat psikat ravalin d'Alim Manskarlel. Très bien. A priori, on a expliqué il y a un mois, on a expliqué que bon, c'est une corde, et que dans la corde, il y a 613 petits fils, et qu'on peut couper un seul fil. Mais dis la Morazaken, quelque chose de très fort. Arrêt. Beribou et Achataïm. Sauf que, c'est vrai que c'est des petites explosions à chaque fois. Mais lorsque tu fais 10 000 fois une petite explosion, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça saute.
C'est un moteur.
D'accord?
Ben, ça avance
oui. Lorsque tu exploses 10 000 fois, ben, ça saute.
Tout saute.
Bien sûr que tout saute.
Il n'y a pas de petit
avion. Eh ben, c'est ce qu'il est en train d'expliquer ici. Et ça, c'est comme ça qu'on casse son état. Comment il fait l'état pour nous comité? Attends.
Rien.
Ah, regarde, les gens, vraiment, ils font des grosses avérances. Ah, regarde, travail, Shabbat, ils font ce que tu veux, ils font les 400 coups, ils trompent leur femme, ce que tu veux. Toi, t'es un bon juif, t'es un juif religieux. Oh, c'est des petits écarts par-ci par-là, ça va, c'est pas le bout du monde. Et il a raison, c'est vrai, il a pas tort.
Bien sûr.
C'est vrai que nous, c'est des petites cordes, c'est pas des grosses cordes. Je peux pas sauter la grosse corde. Sauf que c'est quoi le problème? C'est que quand tu prends cette même petite corde, et tu la fais sauter tous les jours, quand tu fais des explosions, et bien à force, c'est tout qui saute ici. Comme il dit ici. Yachol liot gam, à force de refaire la même avéra, la avéra peut faire un défaut, une explosion, comment belavecha tchesh bokarat omita, une explosion aussi forte, que une avéra sur laquelle il y aurait karat, sur laquelle il y aurait eu un chayav karat ou chayav mita.
Alors c'est pareil.
D'accord. C'est une explosion lente, mais c'est une explosion qui est aussi là.
Alors c'est pareil.
Bien sûr, c'est pareil.
Ah, pourquoi on s'embête?
Va bah, fil ou big fila tretechat, t'as eu rabot mirod.
Pourquoi on s'embête alors?
Pourquoi on s'embête?
Bah, si tu me dis que tu fais des grosses avérotes, c'est la même chose que les petites. Alors, ça va, allons-y. Pourquoi tu vois
la petite, tu l'as fait une fois.
Tu as raison.
Ça veut dire que tu fasses des gros efforts ou pas d'efforts. Ou très peu d'efforts, c'est la même chose à l'arrivée.
Ton
frère Banco, quoi, là. Banco, vas-y, alors,
Christian. Tu as raison.
Et encore, tu me diras que j'ai une grande écharpe.
Il n'y a pas de problème. Oui, tu as raison. Tu as raison, il n'y a pas de problème. D'accord. Je parle ici, je vais essayer d'expliquer un peu plus ce que ça veut dire. On parle, l'Admor HaZaken ici parle de deux choses. Il y a deux choses ici. Il y a le défaut que ça fait dans ma neshama. D'accord. Et il y a le défaut que ça fait dans la relation entre ma neshama et Akadosh Baruch Hu. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. C'est deux choses complètement différentes. Vous me suivez? Deux choses. Première chose, c'est la relation, enfin je vais commencer par la deuxième, c'est la relation qu'il y a entre moi et Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une relation que, si tu fais une avéra sur le Kachayaf Karet, tu coupes les ponts. Tu fais pas une avéra comme ça, même si tu la refais 10 000 fois, tu couperas pas les ponts. Les ponts seront toujours là. Ça, c'est un premier point. Mais il y a un deuxième point qui dit à Admor HaZaken. C'est que lorsqu'on fait une avéra, ça fait un impact sur l'Aneshama. Ça fait un impact sur l'Aneshama. D'accord? Comment on l'a expliqué dans le troisième chapitre du Girat HaTshuva? On a dit, une personne fait une avéra une fois, deux fois, trois fois. Je prends ici une nappe. Je verse une fois du café. Bon. Je peux la laver. Je verse deux fois, trois fois, quatre fois. Après, au bout de 10 fois, la nappe, elle devient noire, c'est fini, on peut plus la laver.
On a vu quand on fait des chouvas, tu changes la nappe, carrément.
Hein. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau du dégât, causé sur la personne, c'est ce qu'il dit Admor HaZaken. Admor HaZaken, il dit, pourquoi je te parle dur comme ça, je te considère comme un mort, et que tu ressens plus rien, etc. J'ai dit, attends, ça va, je suis religieux, ça va. Admor HaZaken, il dit, tu as raison. Tu es religieux, tu as raison, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que t'as pas coupé les ponts avec Dieu. T'as raison, ça c'est vrai. T'as pas coupé les ponts. Mais par rapport à l'impact que ça fait sur ton échama, est-ce que je suis vivant ou je suis mort? C'est très simple. Tu fais 10 000 explosions, et ben ça a le même impact qu'une grosse explosion. Certes, tu n'as pas coupé les ponts avec Akadosh Baruch Hu, mais ne te plains pas, ne te plains pas deux secondes, si tu fais une mitzvah, tu ressens plus rien. Ça, c'est ce qui explique quelque chose d'extraordinaire. Comment c'est qu'on fait une mitzvah, on ressent rien?
C'est-à-dire, en fait, on retombe dans le
puits. Tu as une personne qui est Hayav Karet.
On essaie de sortir du puits.
Non, mais d'accord.
Attention. Non, je vais expliquer.
On s'accroche, à un moment donné, on retombe dans le puits.
Je vais bien expliquer ça, encore une fois. Celui qui a fait une avéra sur laquelle on est Hayav Karet, il a coupé les ponts.
Non.
Si?
On a vu que non.
Non,
mais il est au fond du puits, il va tomber plus bas celui-là.
D'accord, mais là pour l'instant, normalement, dans le normal, celui qui fait une avéra sur le Kanachav Karet, il a coupé les ponts. Il a coupé les ponts, non mais peu importe, il a coupé les ponts avec Akadosh Baruch Hu. Il a coupé les ponts.
Mais il peut toujours...
Non, il a coupé les ponts, c'est fini. Et maintenant, on avait expliqué que même les quelques années qui vont lui rester de vivre, c'est seulement avec les restes de ce qu'il, de ce qu'il a stocké avant.
C'est
l'époque du temps, très bien.
Ça,
c'est un premier point.
On est sur la montagne.
Il y a un deuxième point, c'est pas ça, la question qu'on se pose maintenant, c'est pas est-ce que j'ai coupé les ponts avec Dieu. Ça, on a bien compris qu'aujourd'hui, personne coupe les ponts avec Dieu. La question que je me pose, c'est comment ça se fait que lorsque je fais une fila, ça me dit rien. Si je suis juif, je suis né, d'accord, j'ai une neshama en moi qui est une neshama d'un juif, et que ma neshama normalement doit communiquer avec Akadosh Baruch Hu, comment ça se fait que lorsque je fais une fila, ça communique pas? Il y a un problème. Est-ce que j'ai coupé les ponts? Non, j'ai pas coupé les ponts, parce que j'ai pas fait d'avéra sur le Chayav Karet. Alors si j'ai pas fait d'avéra sur lequel on est Chayav Karet, pourquoi je n'arrive pas à communiquer avec Akadosh Baruch Hu?
Parce qu'on a fait des petites
explosions. Dis-le à Admor HaZaken, c'est très simple, tu lui coupé les ponts, t'as pas coupé les ponts. Mais tu as détruit ta machine.
Bah oui.
Elle tourne plus ta machine.
Elle tourne sur un fil.
D'accord. Elle tourne pas. Elle tourne
sur
plus
un
ta
pied.
Machine.
Sur un pied.
T'es toujours attaché. D'accord. T'es toujours attaché à Kadosh Baruch Hu. Mais ta machine ne tourne plus. Pourquoi elle tourne plus ta machine? C'est très simple. Parce que à force de, tu comprends? C'est comme, on va prendre un exemple. Tu as dans un moteur dans lequel on te dit il faut mettre uniquement de l'essence.
Ah. Là, tu casses le moteur.
Si tu viens, tu prends, tu mets directement du gasoil. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui va se passer avec le moteur? Il fume et qu'est-ce qui va se passer?
Il faut le vider.
Il va tomber, il va sauter. D'accord?
Il y a des camions qui tournent. Les deux.
Bon, il d'accord. Bah, il est conçu pour, mais s'il n'est pas... S'il n'est pas conçu pour, il va casser. Très bien.
Non, il a dit que ça marche quand même.
Maintenant tu en as. Bon, maintenant tu en as un qui est intelligent. C'est une personne qui va dire non. Il va dire, écoute, tu sais quoi? Je ne vais pas mettre que du gasoil. Mais à chaque fois, sur 50 litres, je vais mettre 5 litres. Sur 50 litres. 50 litres, je vais mettre 5 litres.
Alors là, ça fait quoi là?
C'est des petites explosions.
Ça marche pas bien.
Sauf que tu le fais une fois, deux fois, trois fois, tu le fais 100 fois, ton moteur il lâche.
Est-ce que tu peux faire ça? Tu mets 5 litres d'essence ou au contraire?
Ça, tu lui fais ça l'hiver.
C'est bon? Ça marche pas, donc, ça marche bien, on va faire.
Tu veux mieux. Quoi? Oui, d'accord, bon.
C'est mieux.
Oui, mais bon, je parle du concept que quand c'est pas conçu pour, quand tu utilises quelque chose qui n'est pas conçu pour, alors tu vas faire une fois, deux fois, trois fois, ok. Tu peux te prendre des permissions, mais après, à force de faire, après ça casse. Ça tourne plus, après c'est fini.
C'est vrai.
Ça, c'est un principe qui est valable dans le monde, tu comprends? On t'en met un écart. Mais après, à force de faire un écart, tu casses.
Une révision.
C'est pas conçu pour, mesdames et messieurs, c'est pas conçu pour, qu'est-ce que vous faites? Ce que je vais expliquer ici, c'est la chose suivante. Ce que je vais expliquer là, c'est la Morazakane. Il dit, pourquoi je vous dis, pourquoi je vous parle tellement dur ici?
Il
dit que celui qui, bah oui, il nous a comparé à des morts, là.
Il nous a comparé que le fait que tu fais des grosses avérotes ou des petites avérotes, hein,
ah oui.
C'est pareil.
Oui, c'est pas seulement c'est ça. Il nous a comparé comme des morts. Il a dit, oui, c'est un mort.
D'accord. Quand tu fais les efforts. Ah, mais c'est pas émettre.
Ça n'a rien à voir. L'autre, il a tout cassé. D'accord. Si.
Non.
Celui qui a...
Même le voleur,
Celui qui a fait Rascarès, il a tout cassé.
Non.
Si. Il a fait sauter... Non. Celui qui a fait Rascarès, il a fait sauter la machine. Son seul petit compte, c'est le Gilgul. C'est fini, il a fait sauter la machine. Nous, on n'a pas fait sauter la machine, mais elle est en panne.
Tu crois franchement que tous les gens qui font tes chouvas dans Lubavitch ou ailleurs, c'est pas des gens qui sont rayés à Carrette, qui parlent sérieusement?
Il y a plus aujourd'hui, on a dit.
Alors, de quoi on parle alors?
Ça change pas.
Parle-nous d'aujourd'hui, tu nous prends le moral à zéro.
Mais bien sûr, qu'on a un enjeu.
D'accord.
On est dans une équipe, on doit marquer des buts.
Après, tu comprends?
T'as oublié le match.
Il tue les gens.
Il a oublié l'enjeu,
les gars.
Vous fâchez des grosses avérances.
Il y a des gens.
À l'arrivée, c'est la même.
C'est comme si
tu... oui.
Mais en plus t'as pas vu le match.
Si le joueur il fait n'importe quoi.
C'est comme si tu vas dire une voiture à 10 000 km qui tombe en panne et une voiture à 200 000 km qui tombe en panne, c'est la même chose. C'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. Quand une voiture qui a 10 000 km qui tombe en panne, tu vas la réparer, on peut la réparer, c'est facile.
Pas à 10 000 km,
attends, mais écoute-moi mon exemple, s'il te plaît. Je n'arrête pas sur des détails.
De comprendre l'enjeu.
D'accord. T'as envie de la réparer. Tu sais que bon, que même si elle s'est cassée, c'est pas énorme, ça peut se réparer et que le reste est encore bon. Mais quand on a tout cassé. Plus on fait d'Averroth, c'est quand une personne est un grand rachat qui arrive à faire beaucoup d'Averroth. C'est comme s'il a cassé toutes les pièces. Et chaque pièce qui est cassée, il devra la réparer. Tu comprends? Donc c'est pour ça que... L'Admor HaZaken veut simplement expliquer une question très simple ici. Comment ça se fait que lorsque je fais une tefila, lorsque je fais la Torah, je ressens rien? Je sens comme un mort. Je dis rien du tout. Je sens comme si ça me dit rien, ça me parle pas. Comme si c'est pas ma religion. Comme si c'est du charabia. Comment ça se fait? C'est très simple. La raison est là. La raison est parce qu'à force de faire des petites avérotes, d'accord, à force de faire des petites avérotes, ça casse.
Comme le calcul avec la machine à café.
Comme le... Bien sûr.
À force de ne pas nettoyer, la machine à café, évidemment, elle m'a fait le coup, moi. Elle s'est arrêtée de marcher.
Bien sûr. Alors tu peux la réparer.
J'ai réparé.
Tu peux la réparer, mais tu comprends, mais c'est pas fait pour. C'est-à-dire, tu peux la réparer, mais tu l'as quand même cassée. L'Admor HaZaken, il va donner encore un autre exemple. Il dit que moi, chez Imshi, la Navi, à Khataïm, on a encore une autre image du Admor HaZaken. Le prophète, Yeshaya, Isaïe, il va comparer les fautes, les anan amaafil or hashemesh. Il dit que nos fautes sont comme un nuage qui va cacher la lumière du soleil. Kemoshe katoub, comme c'est écrit, machiti ka'af shaykha. Donc imaginez-vous un nuage. Et là, dans le nuage, on comprend très bien. Vous avez un nuage. La vera sur laquelle on est chayav karet, c'est comme un gros nuage. Imaginez-vous un gros nuage éclipse. D'accord. Quand il passe, tu vois plus rien.
Tu vois plus le soleil.
Bon. Ça, c'est un gros nuage. Bon. Mais t'as des petites avérotes. C'est quoi les petites avérotes? C'est un petit nuage. Soft. À lui tout seul, c'est rien. C'est pas rien, mais bon, c'est pas très grave. D'accord. Sauf que quand tu mets comme ça un nuage, deux nuages, trois nuages, un sur l'autre. D'accord. Des couches de nuages. Et ça, vous savez, quand on le voit, quand on prend l'avion. Quand on prend l'avion, regardez une fois, vous allez voir. Regardez par la fenêtre. Vous allez voir que nous, quand on voit d'ici, on croit qu'il y a le nuage, c'est une seule couche. Il n'y a pas une seule couche, il y a des dizaines de couches. On le voit clairement, ça, quand on va dans l'avion. On voit qu'il y a plusieurs couches. Et que nous, en vérité, ce qu'on voit d'en bas, hein, c'est l'accumulation de toutes ces couches. On le voit à la montagne, ça aussi. Il y a des dizaines de couches, si ce n'est pas des centaines de couches. Et c'est, qu'est-ce qui fait que les nuages sont épais, plus épais ou moins épais? C'est combien de couches se sont accumulées? Ça, c'est ce qui fait les nuages. C'est la vérote. C'est la même chose avec l'Averroth.
C'est compté dans les nuages.
Ah oui. C'est ça l'Averroth. Qu'il y ait des Averroths qui nous paraissent légères. C'est bon, ça va, écoute. Ça va, je suis dans le coup quand même. Je suis dans le coup. Sauf que quand on refait la même Averroth une fois, deux fois, trois fois, et qu'on fait pas des chouvas, qu'on regrette pas, ben après avec le temps, chaque Averroth fait un dégât. C'est du calcaire, pour reprendre l'image qui est quand même bien. C'est du calcaire. D'accord, tu rajoutes un nuage, un nuage, un nuage, un nuage, un nuage, un nuage. Après ça devient noir. Après, tu demandes, tu dis, proche, regarde, je vois plus de lumière. Bien sûr qu'il n'y a plus de lumière. Qu'est-ce que tu crois? T'as mis des nuages. C'est ce qu'il dit ici. Qu'est-ce qu'il dit le prophète? Le prophète, lorsqu'il parle de, du tikkun d'Akadosh Baruch Hu d'Averot, que moi je suis katouf comme c'est écrit, Machiti ka'af pesha'echa. Le prophète a dit, j'ai effacé tes fautes comme le nuage. Parce que l'Avera se considère comme un nuage. Em Averot, Ramurot, Amavdili, Meptimiyut, Avdalat Shem Hashem, Ashpa Hashem Avaye Baruch Hu, Le Nefesh Elokit, Kavdalat Anan, Av Vechashuch, Amavdil Ben Hashem, Ashlaraz Vedarim Aleal, Derech Mashal. Que la même manière qu'on peut avoir un nuage qui est épais, qui est obscur, qui va couper entre la terre et le soleil, de la même manière, on a des grosses averotes qui vont couper court entre les deux. Mais à part ça, on a des petits nuages. Vechéanan chatotecha. D'accord? On a ici, qu'est-ce qu'a dit le prophète? Le prophète dit, j'ai effacé comme le gros nuage tes péchas. D'accord? Péché, d'ailleurs, on dit en français. Et comme le petit nuage, t'es khatat. C'est quoi khatat et c'est quoi pécha? Pécha, c'est une avéra qu'on a fait, une avéra qui est très grave. Khatat, c'est une avéra qu'on a fait sans faire exprès, etc., etc. Pécha, c'est une avéra qui est très grave. Ça, c'est un gros nuage. Mais le prophète, on voit bien qu'il dit que même une petite avéra, c'est un petit nuage. C'est quoi ces petites avérotes? En, avérot, kalot, shadam, dash, beigvav. C'est des petites avérotes qu'on piétine tous les jours.
C'est-à-dire?
D'accord? Chacun à son niveau. Des avérotes qu'on fait tous les jours. Et que tellement elle est fait, quand on les fait, on réfléchit même plus au fait que c'est assourd. D'accord? Comme par exemple, un des exemples classiques que donne la Gemara, c'est le Lashon Hara.
C'est banal.
C'est banal. Tu réfléchis même plus. C'est même pas que quand je réfléchis, je me dis, ah, je vais faire un qui, je vais faire une avéra, etc. Tu réfléchis même plus que c'est assourd.
Ça fait un nuage.
Bien sûr, ça fait un nuage. Chaque fois, ça fait un nuage. Chaque chose, fait un nuage. Il n'y a rien sans rien. Quoi?
Le Lashon Hara, c'est pas un petit nuage.
Ah, mais c'est répétitif.
C'est bien un gros nuage.
C'est un nuage qui est calme, enfin, c'est pas, on n'est pas réel carré sur ça. C'est grave, mais c'est pas, on n'est pas réel carré sur ça.
Pourquoi on dit que la chaleur, c'est aussi grave que la terre, l'idolâtrie et le meurtre?
Non, après,
il y a des niveaux peut-être dans la chaleur aussi.
En tout cas, Rassilut, on n'explique pas ça, en tout cas. D'ailleurs, mais Rassilut, on n'explique pas ça. Mais, ça après, tu rentres dans l'aspect ésotérique, que... Bon, que c'est que la chanara, le fait d'avoir décidé de prendre sa parole, la parole qui est synonyme de la qualité de l'homme, et de décider de faire le contraire. Bon, ça après on rentre dans un aspect plus... Là je parle dans un aspect kabbalistique, c'est... Non, la chanara c'est pas plus grave qu'une autre avéra. C'est très grave, c'est certes très grave, mais c'est un nuage. Un nuage, un autre nuage, un autre nuage. Ça c'est d'avéra classique qu'on a tous les jours. D'accord? Ou bien un autre exemple. La tefila. On va voir la kavana dans la tefila. Est-ce qu'une personne, lorsqu'il sort de la prière et qu'il n'a pas réfléchi à la traduction d'un seul mot de la tefila, il se sent mal?
C'est une avéra ou
pas? Bien sûr, c'est une avéra. Excusez, qu'est-ce qu'on fait? On est là, on lit les textes, on comprend ce qu'on dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on fait? On perd notre temps. Normalement, quand on fait la tefila, on doit retenir chaque mot. Je ne dis pas qu'on arrive à chaque fois à faire attention à chaque mot. Mais au moins, essayer la mida, le schéma. Maintenant, ça arrive des jours, t'es tellement la tête ailleurs que même ça, tu fais pas. T'es la tête ailleurs, la majorité de la tefila. Bon. Est-ce que quand tu sors de la synagogue, tu te sens mal, ça? Non, tu t'en fais mal. Pourquoi je t'en fais mal?
Tu n'as pas avoir compris ce qu'on a dit.
Mais bien sûr. C'est une avéra. Ça veut dire que j'ai dit le nom de Dieu en vain, etc., etc.
Donc c'est pas des nuages qu'il y a, c'est des...
Mais c'est des montagnes.
Ils ont mis un immeuble devant le...
Mais oui. Non, encore une fois. La question c'est... La question c'est, est-ce que ça me dérange? C'est quoi une avéra qu'on piétine?
Si je dors.
C'est quoi une avéra qu'on piétine?
Finalement alors.
D'accord. C'est quoi une avéra qu'on piétine? Mais pas du tout. C'est quoi une avéra qu'on piétine? C'est quoi piétine? C'est comme une fourmi. On marche dans la rue, on piétine des fourmis. Est-ce que j'ai déjà pensé un jour que, tu sais, j'ai piétiné des fourmis, j'ai tué des vies?
Oui, je pense. Ouais.
D'accord?
Constamment.
Ouais, constamment. Il n'arrête pas d'y penser.
Ça, j'en arrive à rien. Si pendant que je fais la chanara, par exemple, malheureusement, ça m'arrive, je me sens mal. Mais j'ai fait quoi?
Mais est-ce que tu te rends compte chaque fois que tu dis la chanara?
Ouais, ouais.
Non, bah, nous aussi, on s'en rend compte. Ça.
C'est pratiquement, à mon avis, il n'y a pas eu une journée qui peut passer sans la chanara.
Quand tu fais de la chanara,
Tu veux pas parler, tellement habitué à ce que ce soit. Et puis des fois, des fois les gens, ils ont envie de parler, ils veulent dire quelque chose, t'as rien à dire. Alors tu parles, tu dis une bêtise.
Ça arrive souvent.
Ça arrive souvent.
Oui, bon après c'est des détails.
Tu parles avec quelqu'un d'autre.
Alors.
C'est le fait de lui faire plaisir.
peux le faire Marie,
donc on bêtise, a dit le fait de ne pas avoir de cabana pendant la tefila, c'est une erreur.
Il arrive à 11h. C'est une rigolade.
Il y a une preuve que...
11h, il tourne à la maison. C'est une histoire. C'est existe qu'on est d'accord. C'est rigolo.
On dit que la majorité d'Averroth, on dit que la majorité d'Averroth viennent de l'ennui. Il rentre chez lui, il a rien à faire. D'accord? Il va s'accrocher avec sa femme, il va regarder la télé, il va... Bien sûr. Alors que s'il était occupé, il aurait rien eu tout ça. C'est clair? Bon. Alors, je vais amener, le rabbi amène une preuve, dans les notes du rabbi, il amène une preuve, parce qu'on va expliquer que c'est pas que, les gens, ils pensent que c'est ou blanc ou noir. Ça veut dire, ou je fais une avéra, ou je fais pas une avéra. Donc il dit que les gens ils pensent que ou soit c'est une avéra qui est très grave ou soit c'est pas une avéra qui est très grave. Écoutez bien l'exemple qu'amène leur ami. Il dit comme ça. Une personne qui Dieu préserve Shabbat est malade. Un malade qui a une sakana, qui a un danger. Donc on a le droit de prendre un animal et de faire la shrita pour le donner à manger. Très bien. Alors la Dmour HaZaken, il pose la question, enfin c'est écrit dans la Gemara aussi, il pose la question, il dit, est-ce qu'on peut, bien sûr, ouais. La question qu'on se pose, c'est que, étant donné que de toutes les façons, il va transgresser, on va transgresser pour lui, tant qu'à faire, pourquoi on lui donnerait pas de la viande sans shrita? Pourquoi tu lui demandes de lui faire la shrita? Tant qu'à faire, autant ne pas faire la shrita, on va lui donner de la viande, même de la viande taref, parce que de toutes les façons, il est dans l'interdit. Alors interdit pour interdit, que ça change? Ah oui, interdit, pour toutes les façons, il est dans l'interdit. Tant qu'à faire, interdit pour interdit, éclate-toi. On sait qu'il parlait de Sarah, des fois. Il dit, bon, allez, la réponse à la question de Jacob. Toutes les façons, interdit pour interdit. Toutes les façons, c'est cassé. La machine est cassée. De toute façon, la machine va se casser. Tant qu'à faire, au moins, on profite. D'accord? Qu'est-ce que dit Shulchan Aruch? Shulchan Aruch dit non. Il dit non, t'as pas le droit. Il dit, on t'a permis de manger de la viande, de prendre la viande, de faire un shrita, mais t'as pas le droit de rajouter une deuxième avéra. Pourquoi? De là, on voit quoi? Que ça n'existe pas, ce concept dans la Torah, de dire, qui dit que, je fais déjà une avéra, donc peu importe si j'en fais 2 ou 3 ou 10, toutes les façons, je suis contre la volonté de la Kadosh Baruch Hu. Pas du tout. Attendez deux secondes. Ça, on le comprend bien avec l'image des nuages. Chaque avéra, c'est un nuage. Donc c'est pas parce qu'on t'a permis de mettre un nuage que tu t'en mets 10.
Mais tu veux pas un nuage.
D'accord?
Tu fais pas une avéra.
Quand? Je fais pas une avéra.
Quand tu fais la shita Shabbat.
Bien sûr, je fais une avéra.
Tu fais une avéra. Puisque la personne est en danger.
D'accord. Donc ça veut dire qu'on m'a permis de mettre un nuage. Pourquoi? Parce que. Si, bien sûr, c'est une avéra. On te permet de faire... Bien sûr, je vais à l'encontre de la volonté de Dieu. Sauf que Dieu, il me dit...
Il a enlevé le coup
de... Non. Écoute bien. Dieu, il me dit, je préfère... Non, il a pas enlevé le coup d'avéra. Attention. Non. Attention. Dieu, il dit, je préfère que tu profanes le Shabbat, ce Shabbat-là, parce que ce Shabbat profané te permettra d'en garder beaucoup plus. Il y a un calcul, attention, c'est pas comme ça. Hein.
Non, je pensais que c'est
pas ce que j'avais. Non, c'est écrit, Chalel Alav Shabbat Achad. Chalel Alav Shabbat Achad, Shishmor Shabbat Tarbé. C'est-à-dire, c'est toute une question qui est posée. Si une personne, on sait que les médecins disent qu'il vivra pas plus que selon la... Enfin, il finira pas le Shabbat, est-ce qu'on a le droit de l'aider à se sauver pendant Shabbat? Puisque ce Shabbat ne lui permettra pas d'arriver à d'autres Shabbat. C'est des questions que je crois dans où, ça. C'est compliqué. Bon, quoi qu'il en soit, c'est une question de parenthèse. Je vais pas rentrer dedans.
J'ai entendu que ça, c'est un petit peu rapproché, mais celui qui naît Shabbat, en général, il meurt Shabbat pour réparer les fautes qu'il a fait faire le Shabbat. Donc c'est... Non mais j'entends, je te redonnais la source, mais
je vais faire un jeûne tous les Shabbats.
Mais ça veut dire que c'est pas ta faute, c'est une mitzvah de mettre, c'est, tu vois. Alors tu vas réparer, donc ça veut dire qu'il y a bien une avéra qui a été faite.
Bien sûr.
Donc ça rejoint ce que tu dis.
Pourquoi une avéra?
Je te donnerai la
référence. C'est pas une avéra. Ce qui veut dire, c'est que c'est pas une avéra, mais il y a eu un mal qui a été fait.
Il y a eu des...
Sauf qu'on te l'a permis, on te l'a toléré.
Mais
d'accord.
Je
l'ai permis. Donc, je répète. Je veux bien comprendre ce qu'on explique. Alors. Donc, Vekar Hamam. Donc, tu veux expliquer ici la Dmour HaZaken. De là, on voit quoi? De là, on voit dans cet exemple, on voit clairement que on dit pas c'est blanc ou noir. Soit je fais d'Averot, soit je fais pas d'Averot. Pas du tout. C'est que tu vois que. On peut être dans une situation qu'on fait une avéra, mais quand tu rajoutes une avéra et une avéra et une avéra, chaque avéra rajoute un nuage. Ça veut dire que plus on fait des avérotes, et plus ça nous fait un blocage après quand on veut faire une mitzvah. C'est pas blanc ou noir, c'est pas est-ce que je suis rachat, oui ou non, je veux une réponse. Ça marche pas comme ça. Il y a des avérotes dans lesquelles c'est blanc ou noir, c'est avéra chayef karet. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus d'avérotes comme ça. En fait, il n'y a plus d'avérotes comme ça, donc aujourd'hui il n'y a plus de blanc ou noir. Aujourd'hui c'est relatif, ça veut dire que plus tu fais des avérotes, et plus tu rajoutes un nuage. Et plus, ça fait qu'après, on a du mal à voir la lumière passer. plus on fait teshuva sur Da'averot, et plus on aura la possibilité d'avoir des lumières passées. C'est quoi la force du tzadik? C'est que lui, c'est limpide. Il n'y a pas de nuages. Direct. Nous, on a des nuages, mais après, ça dépend. Il y en a qui ont beaucoup de nuages, il y en a qui n'ont pas beaucoup de nuages. Nous, ce qu'on doit essayer de faire, c'est d'avoir le minimum de nuages possible.
Non, mais les nuages, ça passe.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire, ça veut dire que le garder un minimum possible d'averot en suspens. Il n'y a pas d'averot en suspens. Je dis, attends, je répare un maximum de problèmes. Plus je répare d'averot, plus je supprime de nuages, et plus je ressens la divinité. Ressentir la divinité en clair, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je fais une mitzvah, je la ressens. Je fais une tefila, ça me parle. D'accord? Vekach hamamash, ou ben nimshal bechol avonot shadam dash beigvav. Et donc, c'est la même manière pour toute la vérote, que une personne piétine beigvav avec son talon. Ou mikol sheken, à plus forte raison. Ah mais pour samot, bedivrei razal. Shem mamash kavodazara vegulayrot shfrudami. Dit comme ça. Il dit là déjà l'admor. Donc ça l'admor hazaken avec ça il veut nous expliquer. Pourquoi il nous a parlé durement comme ça? C'est très simple, pourquoi je te parle durement? Parce que toi tu crois que tu fais une petite avéra 10 fois et que ça fait rien? Pas du tout. Chaque avéra qu'on fait, ça fait un nuage. Après, vous ne pas s'étonner. À plus forte raison, dit l'admor hazaken, si c'est une avéra sur laquelle les rachamim ont dit explicitement que cette avéra équivaut par exemple à Vodazara. Par exemple, comme quelle avéra équivaut à Vodazara? Comme la colère, par exemple. D'accord? Mais oui, comme la colère. Ou comme le meurtre. Il y a des avérotes que la Torah te dit, c'est comme si tu fais un meurtre. Par exemple, celui qui fait honte à quelqu'un, d'accord, il le fait rougir, et après il le fait blanchir. On dit, c'est comme si, c'est comparé à quoi? C'est comme si quoi? Comme si qu'il le tue. Ah, mais il a tué personne. Oui, il l'a tué. D'accord? Il le fait rougir, il le fait blanchir. Pourquoi il était rouge, après il a blanchi? Parce qu'il l'a tué. D'accord? Ça s'apparente à tuer, ça. Ça les rames me le disent. Quand on dit que ça s'apparente à tuer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'effet du nuage... Oui, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'effet du nuage, ça a un effet comme si j'avais tué quelqu'un. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut pas dire que j'ai coupé les ponts. Non, ça veut pas dire ça. Mais ça veut dire que les caractéristiques du nuage que j'ai créé, bah, c'est des caractéristiques qui ressemblent au nuage qu'on crée lorsqu'on tue quelqu'un. Donc c'est très grave. C'est très très grave. Kmo ou bien à la Mataïm Inatzaka, un autre exemple. Lorsqu'on ignore la tzedaka, c'est quelqu'un qui passe, il ramasse, fait comme si tu n'as rien vu.
D'accord. Bon, il y en a plein, hein. On en rate pas mal.
Qu'est-ce que ça dit, là? Non, il dit, ignorer la tzedaka. Ignorer la tzedaka.
Ah ouais, tu passes de l'autre côté.
Ne pas donner quand tu as l'autre
côté. Fais comme si tu n'as rien vu. Je n'ai pas vu. D'accord. Ça, c'est écrit que ça s'apparente au meurtre.
Mais même si t'envoies 10 dans la journée.
Après, tu peux pas te donner.
Ah bah pourtant, c'est ce qui est marqué.
D'accord.
C'est la tzedaka, tout le monde la demande.
Ah bon,
très peu à chaque fois.
La vérité.
Beaucoup, il y a beaucoup de demandes.
La vérité, on va s'arrêter ici parce qu'après, j'ai pas envie de bâcler la fin du pérec.
Tu donnes beaucoup, tu fais un gros effort. C'est mieux d'après, t'as l'autre qui se pointe, tu te demandes encore un peu.
Bon, j'ai pas envie de bâcler la fin du pérec. Je vais m'arrêter à ça. En tout cas, si je peux résumer en un mot ce qu'on
explique. C'est un point important ça, parce qu'en fait, on est pas ça.
Alors. On reverra ça la semaine prochaine, Ezrat Hashem. Juste la conclusion, je voudrais conclure. Le point principal qu'on explique aujourd'hui, c'est quoi? Si je peux résumer en un mot, la nouveauté de ce qu'on explique aujourd'hui. La nouveauté de ce qu'on a expliqué aujourd'hui, c'est qu'on a expliqué que la deuxième technique, c'était quoi? La première technique, c'était élargir ses horizons. La deuxième technique, c'était quoi? C'était réaliser la gravité de ce qu'on a fait. Dans le cadre de réaliser la gravité de ce qu'on a fait, Admor Hazaken a dit, il faut savoir que c'est très grave. Et que, avec nos avérotes, on devient mort. Je dis, mais pourquoi tu me parles tellement difficilement? Et ça, c'est le concept qu'on a fait aujourd'hui. C'est que les gens pensent que pour devenir mort, il faut que je fasse une avéra qui a tout fait sauter. Je te dis non. Il y a des avérotes qui vont pas tout sauter, mais progressivement. À petit feu. Ça casse. C'est un nuage. Après, la lumière ne passe plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la deuxième technique qui nous dit qu'il faut casser son Itzara, il faut lui dire, regarde comment tu me casses tout. C'est pas seulement, je dis pas seulement mon Itzara, si j'ai tout cassé, j'ai fait une avéra qui a tout cassé. Non. Même si je fais uniquement des petites avérantes, les petites avérantes peuvent également m'empêcher de communiquer avec Kadosh Baruch Hu. Donc chacun à son niveau doit essayer de faire teshuva et de se dire, c'est pas normal que j'arrive pas à communiquer avec Kadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est pas normal? Voilà, c'est très simple, parce que couche, plus couche. D'accord? Alors, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on aura encore d'autres techniques. On amènera des exemples concrets de la vie de tous les jours, comme la tzedaka, la colère, l'étude de la Torah qu'on pouvait étudier, qu'on n'a pas étudié. D'accord? Différentes, le kriyat shema, un manque de kavana dans le kriyat shema, manque de kavana dans les tfilines, manque de kavana dans les titites, manque de kavana dans la tfila, bitul Torah. Différents exemples qu'il expliquera, concrètement. Et il expliquera comment toute sa avérote là, chaque avéra, tu la prends séparément, si tu l'as fait une seule fois dans la vie, c'est un petit nuage. Mais l'un plus l'autre, plus l'autre, plus l'autre, plus l'autre, ça fait un gros nuage qui fait qu'il n'y a plus de communication. Le même, par rapport à ça, il y a le même effet comme si j'étais Khaled Kamet.
Le ciel s'assombrit.
Il y a plus de le ciel s'assombrit. Alors encore une fois, ça veut pas dire que, ça veut pas dire que mon moteur est cassé, ça veut pas dire que le ciel, ça veut pas dire que le soleil, ça a arrêté de briller. Mais ça veut dire qu'il y a plus de communication.
Ça veut dire qu'on est au fond du puits.
C'est-à-dire qu'il y a plus qu'une seule solution, c'est que c'est quitter.
Est-ce qu'il va te descendre
pour monter, ouais, là, pour, là, pour voir un peu de soleil.
C'est la big nugget comme concept.
Pas du tout. Au contraire, non. Au contraire, pas du tout.
Est-ce qu'il va descendre pour tout monter ou pas?
Tu veux pas bise, t'oses plus bouger, t'oses plus parler.
Mais non, ça n'a rien à voir.
T'oses plus parler.
Bon, le big nugget, il va dire, tu vas pourrir au Gehinnom. Moi, je m'en fiche du Gehinnom, j'en ai rien à faire du Gehinnom. Ça me fait pas peur le Gehinnom, j'ai jamais vu ce que c'était. T'as peur, quelqu'un a peur du Gehinnom ici? Moi j'ai pas peur.
Bah nous on regarde la télé donc on sait un peu ce que c'est.
Ah tu crois qu'il y aura un satan comme ça avec des pics comme ça?
Il y aura des volcans.
Et il se fait rôtir comme ça dans le...
T'as peur du gay? Moi j'ai pas peur du gay.
Il en a parlé. Non.
D'accord.
C'est mon raison d'avoir
peur. D'ailleurs c'est pour ça qu'on en parle très peu. C'est peur ça. Crois-moi qu'au moment où tu fais la vera, le taré va dire écoute ça c'est du pipon. En fait c'est pas du pipon mais t'as jamais vu. On est en train de te dire, on est en train de te... Ben oui. D'accord. C'est comme si on est en train de te dire, ne dépense pas de l'argent aujourd'hui, il faut que dans 100 ans, tu aies de l'argent dans le compte en banque. Écoute, dans 100 ans, on verra, on se débrouillera d'ici là. D'accord.
Non. Il y a quand même des choses qu'on fait par peur, donc c'est bien qu'on a peur de quelque chose.
Très peu par peur. Enfin bon, en tout cas, la chassidoute n'encourage pas du tout la peur. C'est pas la peur. On n'a pas du tout parlé de la peur. C'est l'enjeu.
Alors, c'est l'enjeu.
Ça change tout. C'est l'enjeu, c'est pas la peur, c'est l'enjeu.
De toute façon, on n'a pas 50 options, hein.
D'accord.
De dire,
L'enjeu, on t'explique, écoute, c'est pas compliqué, regarde ce qui s'est passé. T'as rajouté un nuage, +1, +1, voilà, c'est tout, voilà ce qui s'est passé.
On n'a pas 50 options, c'est pour ça qu'on
est en train de faire des nuages.
T'avais pas peur?
La façon de le casser,
c'est comme, de se retrouver. Imagine-toi, je donne un exemple, je reprends la question des erreurs. Imagine-toi, tu as un businessman qui arrive à la fin, il fait un bilan à la fin de l'année. Il voit que, attends deux secondes, il voit que son affaire est perdante. D'accord. Écoutez, messieurs, je finis avec ça. Imaginez-vous que tu as un businessman, à la fin de l'année, il fait le bilan. Il fait le bilan à la fin de l'année. Et il arrive à la conclusion que son affaire ne marche pas. Il perd.
Oui.
Il a peur? Non, il a pas peur.
Qu'il a peur.
Pas du tout, il a pas peur. Mais il dit, attends, il faut arranger le problème. Il va réaliser l'enjeu de ce qui se passe. Il va dire, attends, pourquoi j'ai perdu de l'argent? Parce que tel nuage, plus tel nuage, plus tel nuage, plus tel nuage, telle dépense, ben ça fait qu'en fin de compte, j'ai rien gagné. C'est ça?
Pas du tout.
Attends deux secondes, sans le voir dans les dépenses. Je dis, attends, mais qu'est-ce que j'ai dépensé ce mois-ci? Pourquoi je suis en moins? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tellement de dépenses dans la carte bancaire? D'accord? Pourquoi il y a tellement de dépenses?
J'ai moins d'argent.
Et là, tu vois, tu dis, tu regardes dans la carte bancaire, 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros, 30 euros, 30 euros. Je dis, mais c'est les petites sommes! C'est les petites sommes! Sauf que, nuage, plus nuage, plus nuage, plus nuage, ça fait un trou!
Ça fait un trou!
Ça fait qu'il n'y a plus d'argent dans la compte! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on va... Le chidouche, ce qu'a expliqué le Mourazakan ici, c'est la chassidoute. On cherche pas à te faire peur. On n'est pas en train de te dire, ah, c'est très grave, c'est pourrir en enfer. Non, on va pas te faire peur. On veut simplement que...
Pareil. Non. On va pas te faire peur, non, pas du tout.
On va pas te faire peur. On veut simplement que tu comprennes l'enjeu de ce qui se passe. Que voilà. 5 euros par-ci, 5 euros par-là, 10 euros par-ci, 10 euros par-là, 30 euros par-ci, 50 euros par-là, voilà, bah, à la fin du mois, il n'y a plus rien. Ça en moins. Ah, pourquoi c'est des petites sommes? Oui, mais des petites sommes, petites sommes, petites sommes. Mais à bout du compte, t'as tout plumé. C'est exactement ça. Donc, on veut pas te faire peur. On veut que tu comprennes l'enjeu. Et que tu casses ton etc. Tu dis, mais regarde, tu m'as fait croire 5 euros, ben, voilà, il me reste plus rien. J'aurais plus à communiquer. C'est ça ce qu'on veut que les etc. comprennent. On peut lui faire peur. On veut qu'il comprenne l'enjeu de ce qui se passe. Et que tout se paye dans ce monde. Il n'y a rien de gratuit.
On a quand même l'impression qu'il en veut toujours plus, quand même.
Non, on avait dit le contraire.
C'est-à-dire, on est parti d'un Baal Teshuva finalement qui s'est dit, allez, je vais faire une bonne Teshuva et tout. Et là, on arrive vers Exaïn et là, on te dit, tout ce que ça fait, c'est bien beau. Mais c'est pas ça, c'est pas Emet Veyachar. C'est pas ça, Emet Veyachar.
Parce que, franchement,
déjà, t'as mis du temps pour arriver là, tu t'es dit, ouais, c'est bien.
Mais quand tu sois
Tania,
à moins 100 000 découverts,
et après on te
ou
dit
à moins 10 000, c'est pareil.
Tu vas parler à ton voisin, tu vas faire une
affaire. Parce qu'il y a le Mourazaka, là on parle d'une seconde phase.
Ça veut dire qu'il est en train de nous dire, je veux que vous soyez des
tzadikim. Bien sûr.
Ben oui.
Non, mais c'est pas ce qu'il disait.
Pas des tzadikim. Non, non, non.
C'est pas ce qu'on disait.
Pas bétou le Torah. Pas ceci, pas cela.
Pas de journée, pas...
J'ai rien à faire.
Pas de mal.
Pas de journée.
C'est comme ça, c'est la lacha.
Mais quand tu, excuse-moi, quand tu sois à moins 100 millions sur ton compte, ou à moins 1 million d'euros, mais c'est la même.
Pas du tout.
C'est pareil.
Mais pas du tout. Pas du tout.
Un homme, c'est pareil.
Parce que moins 100 millions, tu peux pas t'en sortir.
Non. Et moins 1 million d'euros non plus.
D'accord, mais là, c'est pas moins 1 million, là.
Alors vas-y,
mais non.
Alors prends moins 100
millions. Chez la majorité des gens, c'est comme le compte en banque. C'est un bon exemple, le compte en banque. Chez la majorité des gens, voilà, c'est comme s'ils sont à découvert.
Voilà.
Mais leur compte en banque, il fonctionne toujours. Tu comprends, ouais. Tana, il a tellement fait découvert Banque de France.
Ils ont une autorisation de découvert de combien?
Tana, tellement il a fait des découvertes, il est Banque de France. Bon, celui-là, il est exilé, il est Khaïf Karet, celui-là. Mais la majorité des gens, ils sont pas Banque de France. Mais ils sont à découvert. Voilà, il a découvert. Un mois, il s'est permis un écart, découvert. Qu'est-ce qui se passe avec celui qui a découvert? Il va s'en sortir, il peut s'en sortir. Mais il se pose la question, mais comment je suis à découvert? Mais j'ai rien fait, j'ai rien acheté. Elle dit, bah oui. Ça qu'on repartit, 10 euros par là, 30 euros par là. Ça se paye tout ça.
D'accord. Non, mais l'exemple est très bon.
Mais de toute façon, clair, sauf qu'on ne sait pas comment on va y arriver.
Un jour, ça fait le contraire. Que quand tu étais dans un avion, tu étais payé par le haut d'en bas. Et que tu
oui, mais non, là, je reprends la question de David. On avait expliqué, je suis pas en train de parler, est-ce que j'ai la part de ça ou pas là.
Mais moi, je parle de la parnassa.
Mais pas, je parle pas de la parnassa, là. Je parle de la communication que j'ai avec Dieu.
Ah, d'accord. Mais c'est quand même lié.
Ben oui. Ça, c'est lié, bien sûr. Ça, c'est lié. Tu comprends? La parnassa n'est pas liée à ma vérote. Peut-être. Mais la communication que j'ai avec Dieu, est-ce que je me sens dans le coup, oui ou non? Ça, c'est directement lié à ma vérote. Directement. Plus je fais de la vérote, et moins je me sens dans le coup.
D'accord. Mais alors, le compte bancaire, c'est pas mon exemple. Prends le calcaire ou les...
Pas du tout. Bien sûr, c'est un très bon exemple, le compte bancaire.
C'est trop de référence aux finances.
Mais bien sûr, c'est un très bon... Non,
c'est
un très bon exemple. C'est un très bon exemple, le compte bancaire. Parce que dans le compte bancaire, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand je fais une avéra, je crois... Quand je fais une avéra,
oui.
D'accord? Quand je flambe, qu'est-ce qui me fait croire le etc., enfin, mon envie de flamber? Elle me dit, c'est rien, c'est des petites sommes. C'est rien. Et il a raison, c'est vrai. Sur le coup, il a raison, c'est une petite somme. Qu'est-ce que c'est 5 euros, 10 euros, 30 euros, 50 euros?
Parce que tout le monde fait un paquet d'oseille quand il vient faire Shabbat.
D'accord?
On parle pas de la bonne panacha. Du paquet d'oseille qu'on croit ramasser pendant Shabbat.
Et pourtant.
Donc pendant la semaine, on s'est dit, bon, ben, puisque Shabbat, j'ai bien fait Shabbat, j'ai fait tout, j'ai tout pour, voilà. La semaine, je peux m'éclater. Je peux faire de la chenage.
Non, encore une fois.
C'est-à-dire, je me pose pas la question. Après,
je suis pas en train de dire.
Je vais me poser la question si je fais de la chenard ou pas, finalement.
Je suis pas en train de dire qu'on va devenir tzadik.
Si, pas si, ça, si,
non.
Si,
voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit supprimer le maximum de nuages possible. D'accord, si tu veux.
Oui, il n'y a pas de nuages.
Ouais, mais ça, c'est pas vrai, parce que.
Oui. C'est là, c'est
tu peux pas supprimer un seul nuage ou tu vas supprimer un nuage encore, mais c'est pas possible parce que un nuage, t'en amène un autre.
Livre là et toutes ces histoires là.
Vous êtes tout supprimé
dans ces belles rabats dans le monde, c'est pour un seul homme.
C'est pour
un seul.
Ma chère.
Pour un seul homme.
Un seul parce qu'après le rabbi, je sais pas qui c'est qui t'a
dit. Mais non, t'as pas compris. Encore une fois, j'ai pas dit qu'il faut. J'ai pas dit qu'on va se réussir à supprimer tous les nuages. J'ai dit.
Ah si.
Non.
Parce que t'as expliqué que même s'il y avait des petits nuages à l'arrivée, eh ben on voyait.
Voilà. Donc on doit essayer de supprimer un maximum de petits nuages.
C'est pas ça qu'il dit.
Mais si, parce que tu comprends, quand tu supprimes les dépenses, tu vas optimiser les dépenses. Alors après, le tzadik, lui, il a 100 000 euros en compte en banque. Toi, t'auras pas 100 000 euros, t'auras 1000 euros. C'est déjà pas mal. 5 000 euros en compte en banque.
Je vais expliquer qu'on a tous moins 100 000, là, parce que tous les accords ont été énumérés.
Oui, d'accord.
Ça fait des couches de nuages.
Oui, mais attention, chaque fois que tu te retiens de faire une avion.
C'est
les petites couches.
Oui, mais les petites couches accumulées les unes avec les autres.
J'ai compris. Mais les nuages, après, ils bougent, tu comprends? Après, chaque fois que tu te retiens de faire une avéra, chaque fois que tu fais tes chouvas sur une avéra, tu supprimes une couche, tu ne rajoutes pas une couche.
On a dit que si tu fais le bilan,
ben oui.
Tu fais une vraie tes chouvas, Dieu, il va t'effacer.
Il t'enlève une couche. Dieu, il envoie un vent, un tsunami, il t'enlève tout ça.
Il va te faire gagner 6 numéros.
Mais après, chaque fois que tu refais une avéra, tu remets une couche. Le but de la chassidoute, c'est justement d'avoir le moins de nuages possible. Ça veut pas dire qu'on est tzadik.
C'est ce qu'on ressent sur le moment.
Encore une fois, c'est ça un des grands, pourquoi il y a eu un des grands obstacles, c'est que, et déjà, dans la Chassidut, on explique c'est quoi la différence entre le tzaddik et le benoni. C'est que le tzaddik, il n'a pas de mauvaises pensées qui lui viennent à l'esprit. Le benoni, il a des mauvaises pensées qui lui viennent à l'esprit. Mais c'est quoi le benoni? C'est qu'il les repousse. Et donc, concrètement, il fait pas d'avéra. Mais il a le tzaddik qui lui balance des pensées énormes. Plus il est grand, plus il balance des pensées énormes. Mais, c'est quoi le benoni? C'est qu'il les repousse, ses pensées. Donc, du coup, il n'y a pas de nuage. Donc, du coup, la communication avec Dieu est limpide. Donc, du coup, quand tu fais une fila, ça marche. Quand il est dans une mitzvah, ça marche.
Alva, ils en sont tous comme ça.
D'accord. Mais oui, mais après, on s'étonne. Pourquoi, quand il vient un Shabbat, on le vit pas? Pourquoi, quand il y a une tefila, on la sent pas? Pourquoi, quand il y a une mitzvah, on la sent pas?
J'hésite à faire.
Mais oui, pourquoi?
On peut créer des nuages, mais on peut les enlever.
Oui, il a raison.
Mais oui, mais plus on a des nuages, et plus c'est difficile de les enlever.
C'est ce qu'il a dit, il hésite à faire un rite parce qu'il sait pas combien de péchés il va faire.
Pourquoi?
Chaque mois, il a pas la kavana, je te dis pas le.
Attends, Dieu grand et redoutable, pardonne-nous les péchés, ramène-nous à la Teshuvah.
Attends, sur Adonis, il faut une, c'est pas la même concentration que sur.